Bien, avec votre permission, on va débuter cette journée, première de deux journées. Donc, je vais en redire un mot. Remercier Jean-François Macaire, vice-président de la région en charge de l'économie, d'être parmi nous. Jean-Pierre Worms, d'être à nos côtés aussi pour ce lancement. Bon, il y a quelques manifestations à Poitiers donc, qui font bouchonner. Je viens de recevoir quelques messages disant j'arrive. Voilà, ça fait une demi-heure que ça dure. Donc il y a à peu près une petite centaine d'inscrits autour de cette thématique. Je voulais remercier avant tout Jackie Doniol d'avoir organisé ces deuxièmes journées qui vont devenir des journées d'automne à l'Espace Pendès France. Vous dire un mot de l'Espace Pendès France, puis deux, trois réflexions sur la thématique qui nous préoccupe, qui nous passionne ou qui nous interroge. Donc pour celles et ceux d'entre vous qui ne le savent pas, vous êtes dans un centre de culture scientifique, une maison qui existe depuis 25 ans concrètement à l'initiative d'un certain nombre de scientifiques, de membres de l'éducation populaire. D'ailleurs, je salue Monsieur de Litardière qui a été fondateur de cette maison dans les années 75. Donc, vous voyez que l'affiliation se fait. Donc, et puis les excuses de Christian Brochet quand il était premier président. Donc, pour vous dire que cette préoccupation de culture scientifique, elle est ancienne, mais derrière cette notion qui à l'époque était très liée à la définition de la vulgarisation, derrière cette notion, maintenant les choses ont beaucoup évolué. Si vous regardez ce que l'Espace Pendès France développe depuis une quinzaine d'années, nous avons depuis cette fondation au milieu des années 70 largement convoqué les sciences de l'homme et de la société. Cette salle est devenue un lieu de rencontre, il y en a certains qui parlent de repères, de réflexion. Je me rappelle d'une intervention qui a fait grand bruit en 1992 ici de Bertrand Schneider, ancien secrétaire général du Club de Rome, qui dès 1992 annonçait un certain nombre de choses qui se passent dans nos sociétés en termes de perte du lien social et de nécessité de le renouveler. Il parlait de science, il parlait de démographie, mais il parlait aussi et surtout de transdisciplinarité, de pluridisciplinarité. Et en 2002, Edgar Morin a fait ici une intervention où déjà il appelait à dépasser la notion de développement durable pour mieux la remettre en société, justement. Donc vous comprendrez que la maison, l'Espace Pendès France, est aussi une maison de vulgarisation, mais pas que ça. Et régulièrement, si vous regardez nos programmes, nous essayons de mettre à la tribune, ici, des intervenants qui permettent de croiser science dans toutes ses dimensions, société dans toutes ses perspectives, mais également de créer les conditions d'une mobilisation de nos concitoyens. Pratiquement 40% de la programmation de l'Espace Pendès France. Je vous rappelle que c'est 120, 130 conférences et débats par an. C'est une centaine de rendez-vous. En région Poitou-Charentes, avec l'aide de la région, depuis une dizaine d'années, on a un label qui a été reconnu au niveau national qui s'appelle Science pour tous. Récemment, le Sénat, lors d'une audition nationale, a mis en exergue la plateforme régionale que nous avons montée. L'an dernier, c'était pratiquement 60 000 personnes dans 800 communes. Donc la rencontre entre l'urbain, l'universitaire et le rural, avec ses richesses, cet apport, nous le faisons. Donc l'alliance entre ce bâtiment et le pays régional est maintenant faite, à charge pour nous d'anticiper et de se projeter dans l'avenir. C'est la raison pour laquelle, depuis trois ans que nous travaillons ensemble avec Jackie sur ces notions de créativité et de territoire, la maison a répondu présente à l'accueil de ce type d'événement, tout simplement parce que je pense que cette notion de transversalité, de pluridisciplinarité, il faut en parler, mais il faut surtout la faire vivre. La relation entre science et société, il faut en parler, il faut surtout la faire vivre. Dans cette salle, vous avez régulièrement des scientifiques et des membres de la société régionale qui viennent dialoguer à travers des opérations extrêmement concrètes. Et régulièrement, nous montons des projets qui croisent les compétences et les expertises. Il n'y a pas de hiérarchie. Ce n'est pas parce qu'on est à l'intérieur de la communauté scientifique qu'on en sait plus que les autres. Et ce n'est pas parce qu'on est membre de la communauté scientifique qu'on va apporter des réponses définitives. J'en veux pour preuve l'expérience que nous menons en Deux-Sèvres depuis maintenant 5 ans dans cette opération qui s'appelle Terre de Science. Je pense qu'on a réussi à faire bouger un certain nombre de lignes, y compris sur deux éléments structurants d'un programme départemental, suite à l'intervention de personnalités de la communauté scientifique qui n'ont pas dit ce qu'il fallait faire, qui n'ont pas donné les solutions, mais qui ont posé les questions différemment de ce qu'avaient pu faire peut-être les élus en leur temps, les services en leur temps, etc. Donc cette maison s'est inscrite délibérément dans un projet de développement régional, aux côtés de l'agglomération de Poitiers, de la ville de Poitiers depuis longtemps, de la région depuis aussi longtemps, et cette alliance, nous la faisons vivre concrètement. Donc pour ces journées, je voulais simplement vous faire part d'une réflexion qui est celle que j'ai vécue ici autour de la question du développement durable grâce au réseau de notre ami Edgar Morin. Plus d'un millier de personnes sont passées dans cette région depuis 2007, du rapport Brundtland à Boutros Ghali, etc., etc. Et en fait, on se rend compte d'une chose, elle est simple, et ça c'est un message que je porte, hein. Rien n'est prouvé qui ne dure. Donc il ne faudrait pas que, à l'instar de choses qui sont arrivées dans les médias comme des météorites, hein, rappelez-vous, l'entreprise citoyenne, qui en parle maintenant ? La responsabilité sociale des entreprises, on en parle de moins en moins, et pourtant il faut la faire. Bref, donc il faut que cette notion de créativité et territoire, elle dure, elle s'inscrive dans le temps. Pour s'inscrire dans le temps, il faut à la fois être attentif à l'innovation, mais surtout être attentif au fait qu'on ne reste pas entre soi. Et le fait de ne pas rester entre soi, ça passe par la création et l'entretien de rendez-vous permanents qui sont des rendez-vous exigeants du point de vue des contenus, mais surtout ouverts et tolérants du point de vue des approches. Donc je crois que si on veut que cette notion qui est en train de monter un peu partout, si on regarde les choses en France, en Europe, en France, ici finalement il y a un groupe qui est assez original, qui est en train de se créer, il faut que les choses s'inscrivent dans le temps. Il faut qu'elles entrent dans une problématique, une méthodologie tout à la fois relevant, alors c'est pas parce qu'on a une exposition sur le cerveau que je vous dis ça, du cerveau gauche et des choses un peu cartésiennes, un peu comme ça, un peu mises en étape, et puis du cerveau droit un peu plus subjectif, un peu plus intuitif, mais ne pas se perdre dans des méandres et dans des choses un peu invraisemblables, tout en acceptant d'être à la marge. Donc voilà, exercice difficile. Mais l'inscription dans le temps, elle est indispensable parce que c'est une façon de répondre aux enjeux de nos territoires où la science, la culture et l'éducation seront au cœur d'un renouveau et du renouvellement des questionnements, donc du renouvellement des réponses. Donc cette maison sera présente. Nous préparons déjà les rencontres d'automne de créativité et territoire de 2014. Ce que vous allez dire aujourd'hui, vos contributions sont enregistrées. On va faire en sorte de pouvoir les reprendre pour pouvoir largement les diffuser et créer autour de ça un mouvement d'adhésion et de contribution. Donc, encore une fois, merci à Jackie Doniol de nous avoir permis d'éclairer ce type de questions déjà depuis longtemps. La notion de recherche qui est chère au travail de cette maison est aussi largement dans nos préoccupations. Donc, mobiliser des chercheurs français, européens, voire extra communauté européenne, ça va faire aussi partie de nos ambitions. Sachez qu'au mois de décembre, on a prévu une réunion ici avec un de mes amis qui était vice-président de l'Université de Santiago du Chili et qui vraisemblablement sera ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dans quelques semaines après l'élection annoncée de Michel Bachelet qui reprend la présidence du Chili. Et derrière ce réseau, c'est l'ensemble des universités sud-américaines. Donc ils viennent ici au mois de décembre. Et au mois de décembre, viendra également une grosse délégation d'Afrique de l'Ouest. Et la question est toujours la même, c'est comment est-ce qu'on peut renouveler nos territoires. Voilà, donc pour dire que les choses sont enclenchées. Et on compte beaucoup sur vous et vos contributions. Donc bonne journée de travail avec Ernest, j'y serai. Demain matin, je vous ferai une petite intervention pour vous parler d'éducation et de territoire, puisque c'est une thématique que je suis en train de développer au niveau international avec notre ami Edgar Morin dans le cadre d'une fondation dont vous entendrez parler dans très peu de temps puisque cette fondation a été créée la semaine dernière à Paris. Donc demain matin, moi, je vous donnerai quelques éléments davantage liés à la question de territoire, d'éducation et de créativité. Donc merci de votre attention et bienvenue à l'espace Mendès France.
Jean-François,
la parole est à toi.
Merci. Cher Jean-Pierre, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Moi, je suis un peu de passage avec vous parce que je n'aurai pas beaucoup de temps, je ne pourrai pas y rester bien longtemps, je vois le temps passer, mais ça me fait grand plaisir d'être là pour vous dire que nous sommes, en tout cas, nous voulons être, nous au Conseil régional, une région laboratoire. Pourquoi une région laboratoire? je pense que, je n'aurai pas besoin de vous convaincre, je vais prêcher des convaincus. Enfin, quand même, je pense que ça mérite peut-être d'être souligné que nous sommes dans une situation qui est quand même difficile. Peut-être nos prédécesseurs ont tous dit toujours que dans une situation difficile, je ne sais pas, mais en tout cas, on a quand même un avenir qui est assez sombre, malgré tout. Et nous sommes en train de gérer des situations, notamment à travers la crise mondiale, le manque de croissance, où on ne sait plus trop comment avancer aujourd'hui, est-ce qu'on doit défendre ce qu'on a, est-ce qu'on doit faire confiance à un renouveau qui va arriver spontanément, comment il faut faire par rapport à ce problème économique de fond, mais qui quand même touche un grand nombre de nos concitoyens, puisqu'il y a beaucoup de chômage, il y a beaucoup de jeunes qui ne trouvent pas d'emploi, il y a des grosses difficultés de ce côté-là. Et puis, il y a aussi la crise des finances publiques qui est un peu un paradoxe, je trouve, parce que c'est au moment où on se tourne toujours vers les pouvoirs publics que, justement, les pouvoirs publics n'ont plus de moyens pour répondre. J'étais frappé, j'ai vu à la télévision une dame touchée par la fermeture de l'abattoir en Bretagne et qui se tournait vers les élus de façon très agressive, en disant « Vous êtes bien tranquille, vous avez vos indemnités. » Vous avez peut-être vu ça à la télévision. Elle ne parlait pas au patron. Le patron avait oublié que c'était lui quand même un peu le responsable, le patron de cette entreprise. Elle parlait au pouvoir public parce que finalement, on ne s'adresse même plus au capital. Quand le capital fout le camp, on considère que c'est un petit peu, malheureusement, dramatique. Mais c'est comme ça. Et on se tourne vers les pouvoirs publics et on leur demande des choses. Et les pouvoirs publics, qu'est-ce qu'ils font? Ils réduisent leurs moyens chaque année et je crois que c'est durable. Au moins qu'on peut toujours espérer que ça change, mais je ne crois pas que ça va changer. C'est-à-dire, c'est une réalité. La capacité de la création de richesses dans nos nations, je pense que c'est au moins valable au plan européen, mais peut-être davantage, fait que on ne peut plus aller au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui et on est même plutôt en perspective de dépenser moins, de faire des dépenses publiques nettement moins importantes, et puis d'essayer de gérer une situation pour ne pas se retrouver avec des à-coups comme les Grecs ou les Espagnols, où on n'arrive même plus à payer les fonctionnaires. Donc on n'est pas si, on va dire, dans le malheur, on n'est peut-être pas si mauvais que ça, parce qu'on arrive encore à tenir notre système de protection sociale, de services publics. Voilà, là, ça, c'est la situation. Et soit on est tétanisé dans une situation comme celle-là et on se dit on ne sait plus quoi faire. On essaye d'être finalement les bons élus, c'est ceux qui savent gérer la réduction des dépenses publiques et qui vont arriver malgré tout à faire ça avec pas trop de dégâts. Bon, c'est sûrement une partie de la qualité des élus de savoir faire ça quand même. Hein, c'est important, évidemment. Mais ça ne peut pas s'arrêter là. Comment on rebondit? Qu'est-ce qui nous permet d'aller un petit peu plus loin et de susciter, ou du moins d'être suffisamment actif pour que on ne soit pas des freins, au contraire, on soit des catalyseurs pour la réaction du corps social dans son ensemble, puisque c'est évidemment pas les élus tout seuls qui vont changer les choses. Et c'est là qu'effectivement la question de l'innovation se pose, de la créativité sur les territoires. On est dans notre pays, je trouve, malgré les lois de décentralisation, on est encore dans un pays quand même. Qu'est-ce qu'on est mauvais en matière de décentralisation, je trouve, même sur la séquence actuelle. Moi, j'attendais une réforme de décentralisation. Finalement, c'est une réforme territoriale, mais ce n'est pas vraiment une décentralisation. Donc, on est toujours dans cette idée que l'État va nous apporter quelque chose. Or, on sait bien que notre État, il a un peu pris en tenaille maintenant entre, effectivement, les territoires et puis l'Union européenne. Laquelle l'Union européenne a visiblement beaucoup de mal à se faire une stratégie à l'échelle mondiale. Donc on se tourne tous vers un échelon de pouvoir qui n'en a plus beaucoup. Et donc ça suppose, je crois, de notre part, effectivement, une capacité d'innovation qui est certainement très dangereuse sur le plan électoral, il faut bien le dire. Donc il y a cette ambiguïté chez les électeurs qui est de dire... il nous faut des élus qui aillent de l'avant, mais en même temps, dès qu'il y a des choses un peu fortes, c'est très difficile à faire accepter, parce que je pense par exemple aux questions fiscales, c'est très complexe.
de faire bouger la fiscalité. Or, si on ne fait pas bouger la fiscalité, on va le payer un jour, je pense, hein, il me semble. Vous voyez. Donc, ça, il y a un sujet autour de ça qui nécessite qu'on trouve la bonne articulation entre la façon dont les élus proposent un certain nombre d'innovations, dont le corps social s'en empare ou s'en empare pas, comment on fait vivre tout ça, donc quelle dynamique on peut créer par rapport à cela. Et je crois que c'est ça notre boulot aujourd'hui, principalement, au-delà du fait de gérer nos budgets au plus serré, c'est notre boulot d'élus de collectivités territoriales. Et donc c'est utile, effectivement, Jackie s'y emploie depuis longtemps, d'avoir cette veille permanente sur la créativité dans les territoires. C'est pas parce qu'il y a des échecs ici ou là que ça ne va pas pour autant dire qu'il n'y a rien de possible. Puis il y a des choses qui marchent bien. Avec le recul sur le temps, ça permet de crédibiliser un certain nombre de démarches. Il faut aussi beaucoup de patience, effectivement, dans cette matière-là, parce qu'on se rend compte que des idées qui, à un moment donné, paraissaient bonnes, et puis elles ont été cassées par les réalités, quelques années plus tard, ça revient, et puis peut-être là, les conditions sont meilleures. Donc, surtout, il ne faut pas baisser la garde sur la créativité. Il faut affirmer les territoires. Il faut que les politiques publiques changent, qu'elles soient beaucoup plus innovantes qu'elles ont été jusqu'à présent. C'est la raison pour laquelle, en Poitou-Charentes, avec Ségolène Royal, nous affirmons que nous sommes une région laboratoire, c'est-à-dire que nous expérimentons un certain nombre d'idées nouvelles, d'une autre façon, par exemple, de travailler sur la question économique, de porter des projets industriels. C'est le rôle des élus, on va nous dire non, vous n'êtes pas dans votre place. Si, je pense que nous sommes à notre place quand nous portons des projets industriels. Nous sommes à notre place quand nous sommes au cœur d'une industrie déclinante pour l'emmener vers les nouveaux marchés, sur des choses qui vont fonctionner demain et sur lesquelles il pourra y avoir à nouveau une économie solide sur la durée. Je pense que nous sommes dans notre rôle, même si au quotidien, évidemment, c'est très compliqué parce que ça suppose de faire des choix, évidemment, difficiles compte tenu de la situation des finances publiques. Bon, voilà un petit peu un petit mot, mais pour vous dire comment j'aborde un peu cette question, innovation, créativité sur nos territoires. Et je lirai attentivement, mais de toute façon, je suis toujours alimenté par Jackie, donc il n'y a pas de problème. Tout ce qui pourra venir de votre côté pour alimenter cette réflexion-là et faire émerger un certain nombre de créations, d'innovations qui sont indispensables pour notre avenir. Bonne journée de travail.
Merci Jean-François. Monsieur Worms, la parole est à vous.
Bon, alors on m'a demandé d'être témoin pour l'ouverture de ces deux journées de travail. Sur la thématique générale, c'est difficile de trouver plus de 60 ans d'engagement militant à divers titres de ma part, de trouver quelle a été la chose dont je pouvais le mieux parler en un quart d'heure. Et j'ai choisi de parler de l'aventure d'un réseau qui s'appelle Initiative France, qui est le réseau des plateformes d'initiative locale. Alors très rapidement, en tirer quelques enseignements et puis montrer sur deux autres initiatives dont j'étais partie prenante ou à l'origine desquelles je me trouve, comment cette démarche que j'ai essayé d'illustrer à partir de l'histoire d'Initiative France peut se développer de façon plus générale. Alors, premièrement, Initiative France, c'est né, ça s'appelait à l'époque France Initiative, et puis c'est devenu France Initiative Réseau, et maintenant Initiative France. Au départ, la première grande crise de 1974, crise pétrolière, qui était en fait la fin de ce qu'on a appelé les Trente Glorieuses. On a du mal à imaginer aujourd'hui que fut une époque, plusieurs décennies, pendant laquelle le taux de croissance annuel était autour de 5%, enfin, dans lesquels le niveau du chômage oscillait entre 4 et 5%. C'est une sorte de chômage structurel lié aux évolutions. Puis tout ça s'écroule en quelques années, très très vite. On voit à la fois le taux de croissance du PIB. Je ne me prononce pas ici sur cet indicateur que je conteste fortement. Mais enfin, le taux de croissance tel qu'il est mesuré s'effondre. Et à l'inverse, le chômage commence à monter très très vite. Et on voit des pans entiers des industries, de ce qui structurait en fait le développement, le charbon, la sidérurgie, le textile, s'effondrer. Il y avait à l'époque une institution, alors moi j'étais élu local, conseil général, j'avais la responsabilité de comité d'expansion, j'engageais des démarches de développement local, développement ascendant à partir de la mobilisation des ressources locales, et je me suis trouvé en contact à ce titre, à travers aussi le CNER, le Conseil national des économies régionales au niveau national, avec une institution qui s'appelait l'IDI, qui s'appelle toujours l'IDI, mais je crois qu'elle a un peu changé de vocation, qui, à l'époque, cherchait à trouver les ressorts d'un redémarrage de l'activité économique et de l'activité industrielle, notamment. Et notamment, il y avait un banquier qui s'appelait Jean-Philippe, ça s'appelle toujours, il n'est pas mort, Jean-Philippe Mallet, un type absolument génial, complètement fou, un délice de travailler avec lui. Et on a fait deux séminaires à l'université de Compiègne, et pour se dire, mais quels sont les ressorts possibles sur lesquels on pourrait jouer dans une situation de crise? Et on est parti de l'idée toute bête qu'il y avait un gisement potentiel de création d'activités et d'emplois qui était totalement inexploité. C'était l'initiative des gens de la base qui avaient envie de créer ou qui se trouvaient obligés de créer leur propre emploi faute que cet emploi leur soit offert. Et là-dessus, je voudrais tout de suite mettre un bémol sur cette distinction qu'on fait souvent entre ceux qui sont obligés de créer et ceux qui ont envie de créer. En l'occurrence, même quand on est obligé de créer, on se trouve dans la situation d'en avoir envie. Et donc, le passage, la frontière n'est pas aussi nette que certains théoriciens veulent faire croire. Donc, on s'est dit, il y a un potentiel là nettement insuffisamment valorisé. Pourquoi? Alors, on a travaillé, on s'est dit, il manque deux choses. Il manque l'approche, l'accompagnement bancaire. Quand on se débrouille sans les banques, on peut s'assurer sa survie par toute une série de capacités de débrouillardise. On n'arrive pas à franchir le pas de l'économie de survie à l'économie de développement. Pour franchir ce pas, on a besoin du soutien bancaire, crédit et services. Le problème, c'est que les banques, elles ne prêtent, entre guillemets, qu'aux riches, elles ne prêtent pour la création et le développement d'une entreprise qu'à proportion de l'apport personnel de l'entrepreneur. Si l'entrepreneur n'a pas un radis, pas d'apport personnel, pas de soutien bancaire. Donc, notre première approche a été, mais on a identifié ça, ce n'était pas un problème d'investissement, c'est un problème d'apport personnel. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer l'apport personnel du créateur? Et puis, deuxième blocage qui apparaissait tout à fait net, c'est que dans le soutien bancaire, mais plus généralement dans l'installation d'une petite entreprise, on a énormément besoin des autres. On a besoin de sous-traitants, on a besoin de co-traitants, on a besoin de partenaires sur le territoire où on s'implante. Or, le type qui arrive, qui n'est pas du milieu, qui ne vient pas du sérail, il ne connaît pas les institutions et les gens. Et donc, le problème de réseau territorial, d'acteurs économiques, l'entrée dans ces réseaux est un élément essentiel de réussite. À partir de là, on a inventé deux produits. Le prêt d'honneur. Alors, ce qu'on appelle le prêt d'honneur, c'est un prêt à taux zéro à la personne du créateur. Pourquoi à la personne? Parce qu'il faut que ce soit la personne à qui on fait confiance. Et pourquoi le prêt à taux zéro? Pas par principe de la gratuité. Tout simplement parce que dès lors qu'il y a un intérêt au prêt, quand on paye l'intérêt, on se décharge de toute responsabilité à l'égard de l'autre. Si on ne paye pas l'intérêt, il y a un devoir d'être à la hauteur de la confiance qui vous a été faite. C'est un prêt sur la confiance et qui appelle un retour. Donc un rapport, les fameux rapports que, du don et du contre-don, théorie de Marcel Mauss, Alain Caillé, je crois, est venu ici vous en parler. Bon, ce principe de base, c'est que le lien social fondé sur un rapport de réciprocité dans la confiance est quelque chose qui est beaucoup plus engageant en termes de mobilisation de l'énergie de la personne que le lien sur purement de devoir financier lié au prêt à intérêt. Donc pour nous, le prêt d'honneur, ce qu'on appelait le prêt d'honneur, où c'est l'honneur de la personne qui est engagée, est quelque chose de formidablement moteur. Moteur dans l'engagement de la personne et moteur dans la construction d'un lien avec son environnement. Et le deuxième truc était effectivement déjà à partir du prêt d'honneur, on ouvrait un espace vers la relation. La deuxième chose, c'est comment construire une relation de partenariat avec l'environnement. Et on a inventé à l'époque le parrainage des créateurs d'entreprises. L'idée du parrainage, c'est tout simplement qu'il y a quelqu'un qui est installé, qui a pignon sur rue, qui connaît les réseaux locaux, qui les utilise, qui dit ce nouvel entrant, j'y crois, je lui fais confiance, et la confiance dont je bénéficie dans mon environnement, je vais lui en faire bénéficier. Et on ouvre à partir de là. Alors il y a l'accompagnement technique, le suivi, il y a toute la logistique professionnelle de l'accompagnement de la création et du développement des TPE. Mais au-delà de ça, il y a ce rapport personnalisé, one-to-one, de confiance, qui ouvre un autre espace. Et là, vous disiez tout à l'heure que cerveau gauche, cerveau droit. Là, on est dans le cerveau droit. On est effectivement dans cet univers affectif, relationnel, au-delà des relations qui sont quantifiables et qui sont de l'ordre de la rationalité financière. Cette foi dans la capacité des individus à créer, à se créer et à créer du bien commun en se développant et en se créant soi-même. Donc, à partir de là, alors très rapidement, il y a eu une association, d'abord nationale, mais nourrie par des apports des amis de Jean-Philippe, en l'occurrence, qui ont fait un pot commun pour faire des prêts d'honneur à partir de leurs dons. Ils croyaient aux dons. Et tellement accompagner une petite boulangerie dans les Alpes-Maritimes ou dans les Pyrénées, à partir d'un petit noyau parisien, le parrainage, là, ça ne marchait pas très bien. Et donc, très rapidement, sur cette idée, se sont créées des associations locales. Et puis, quand il y en a eu une quinzaine, elles se sont fédérées, et puis, etc. Bon, bah, alors, il y a eu des tas d'aventures, il y a eu des menaces de dépôt de bilan, enfin, des choses tout à fait épouvantables. Je m'en suis occupé à l'époque. Et bon, donc, j'étais... En période de crise, on va chercher le fondateur pour bon. Et donc, j'ai beaucoup présidé pendant longtemps ce réseau. Quand la gauche était au pouvoir, je le présidais. J'ai été chercher un vice-président de droite pour que quand la droite était au pouvoir, on puisse quand même... Bon, etc. Et puis, en même temps, dépolitiser en termes de politique partisane un réseau qui mobilise des ressources économiques qui ne sont pas politiquement marquées quand elles le sont. Majoritairement, elles ne sont pas du même côté que moi j'étais. Bon. Donc, il fallait absolument, d'une certaine façon, ouvrir. Et puis, sortir de l'engagement purement partisan, une démarche qui, politiquement, était très signifiante, mais qui, à mon sens, était un peu transversale par rapport au clivage politique, cette idée de base que les ressources sont dans la société. Et cette idée, je crois qu'aujourd'hui, elle est d'une très, très grande pertinence. Donc, à partir de là, le réseau, aujourd'hui, c'est 230 associations, c'est l'année dernière 17 000 créations d'entreprises, 37 000 créations d'emplois, une durabilité des emplois créés nettement supérieure à la moyenne nationale, de l'ordre d'un peu 85% sur 3 ans, 70% sur 5 ans, nettement au-dessus, enfin plus de 73% sur 5 ans, c'est-à-dire nettement au-dessus des statistiques nationales. Un remboursement des emprunts, parce que c'est des prêts, il faut les rembourser, sans intérêt, mais 98% de remboursement, ce qui signifie que l'honneur, ça marche, et surtout un effet levier du système prêt à la personne permettant de dire à son banquier, voilà ce que je mets au pot. Parce que ce qu'on donne, c'est du capital à la personne que lui-même va investir en termes de fonds propres de son entreprise. Donc, voilà ce que je donne à titre personnel, vous me suivez ou pas. Comme par ailleurs, il y a tout l'accompagnement, à la fois technique, très pointu, très professionnalisé. On a une norme AFNO, etc., sur la qualité de l'accompagnement. Mais en même temps, le parrainage. J'ai comme parrain monsieur Intel, que vous connaissez bien, qui est votre client, etc. Résultat, un effet levier de 8. Quand on prête 10 000 euros, il y a 80 000 euros de prêts bancaires qui viennent derrière. Donc, tout ça fait que les près de 40 000 emplois qu'on crée chaque année sont des emplois durables, c'est des emplois qui sont bancarisés. Enfin, c'est des entreprises qui sont bancarisées. Donc, de ce point de vue-là, très belle réussite. Alors, rapidement, quels enseignements je tire de tout ça? Plusieurs choses. C'est que, d'une certaine façon, la crise, l'effet de... l'effet d'effondrement des éléments de sécurité sur lesquels on a l'habitude de s'appuyer, ça peut être un moteur de mobilisation. Donc, entre la sinistrose, ça ne se combat pas par « tout va très bien, madame la marquise, et on va s'en sortir, rassurez-vous, on s'occupe de vous ». En revanche, la sinistrose, ça peut être dépassé par « on vous reconnaît, on vous approuve, on vous soutient, comme dans vos initiatives. Votre richesse, elle est en vous. On est prêt, à les peu de moyens qu'on a, à les mettre à votre service. Non pas vous remplacer, non pas jouer à votre place, mais à vous reconnaître. » Donc, de ce point de vue-là, un dispositif qui s'appuie sur la reconnaissance de l'initiative, initiative économique, sociale, culturelle, et sur la dignité reconnue, le respect affirmé du porteur d'initiative, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Deuxième élément tout à fait de base, est que cette capacité d'initiative, elle peut naître de la difficulté. Deuxième élément de base, cette initiative de l'individu, elle ne se développe que dans la mesure où elle est entourée et elle s'inscrit dans des réseaux de solidarité. Et donc, entre l'initiative individuelle et la solidarité collective, il n'y a pas à opposer les deux choses. L'un renforce l'autre. La solidarité collective, elle se construit dans la mesure où les gens qui sont solidaires sont des acteurs et pas simplement des consommateurs de la solidarité. Et d'autre part, l'individu, il se nourrit de cette solidarité. Il nourrit sa propre capacité du fait qu'il est reconnu, qu'il acquiert une dignité auprès de son entourage par sa capacité d'initiative. Donc, initiative, solidarité collective sont deux phénomènes, de dynamiques qui sont productives dans la mesure où elles s'associent. Troisième, qui est lié à cette deuxième, troisième conséquence, l'environnement, c'est un élément essentiel, et cette solidarité collective, c'est celle d'abord d'un environnement pertinent par rapport à son initiative. Pour l'essentiel, ce sont des environnements territorialisés. Mais il y a d'autres environnements. Il y a un mot qu'en France, on déteste, et qui, pour moi, est fondamental, c'est le mot communauté. On le déteste parce qu'on a peur, communautariste, etc. L'individu, il est productif de lui-même dans la mesure où il s'inscrit dans une communauté solidaire. Et cette communauté, c'est toute une série de liens qui existent, liens culturels, liens historiques. Il y a des communautés familiales, il y a des communautés religieuses, je suis complètement athée, mais il y a des communautés religieuses, ça compte, c'est une réalité. Le fait communautaire est un fait tout à fait essentiel pour la construction de la solidarité. L'essentiel en France, de toute façon, des communautés, pour ce qui nous concerne, c'est les communautés territoriales. On appartient au même pays, au sens mouvement des pays, au même petit territoire de solidarité, d'histoire partagée, de destin commun assumé. Donc, solidarité territoriale, communauté territoriale, ancrage dans un environnement territorialisé. Quatrième idée, c'est que cet environnement, c'est à la fois un lieu d'émergence de besoins spécifiques et un lieu de mobilisation de ressources spécifiques. on n'innove pas, on n'invente pas, on ne crée pas une entreprise. Comme ça, on a une idée. On a une idée qui vient du fait qu'il y a quelque chose à faire dans la situation historique, géographique donnée, qui apparaît comme « Ah, maintenant, là-dessus, il n'y a rien. Je peux essayer de remplir ce vide par une initiative. » Donc, l'initiative, elle est d'une certaine façon reliée à un état des lieux de la situation dans laquelle elle va se dérouler. Et d'autre part, pour la mettre en œuvre, qu'est-ce que je vais mobiliser ? Ben, je vais mobiliser des compétences, des savoir-faire, etc., qui sont liées à ce territoire. Donc, le territoire, c'est à la fois l'occasion de développer une initiative. L'initiative, elle n'est pas historiquement, socialement désincarnée. Hein, la créativité, elle est toujours produite dans un certain contexte historique, géographique, culturel. Et en même temps, ce contexte, ce n'est pas seulement des manques à combler, ce sont de formidables ressources à mobiliser. Bon, à partir de là, moi, je crois que cette idée, dans l'environnement, vous avez à la fois des contraintes, des manques, mais aussi des opportunités, des ressources. Vous êtes vous-même en capacité d'avoir des zones de faiblesse et des zones de force. On a ce fameux quadrilatère dont on se sert pour faire n'importe quelle démarche de prospective. Bon, ayant dit cela, parce que mon quart d'heure est presque épuisé, je voudrais dire qu'au-delà de la belle réussite d'Initiative France, alors j'ai présidé, puis on a alterné les présidences, puis j'ai passé la présidence à un type formidable qui est Bernard Brune, mais qui malheureusement est mort. J'ai repris la présidence et maintenant c'est Louis Schweitzer qui préside le réseau et je suis ravi, ça marche bien. Mais on a des tempéraments très différents, mais en même temps, je suis vice-président, ça marche bien aussi. Deux autres initiatives qui relèvent de la même démarche. D'abord, on est allé me chercher, comme par ailleurs j'étais sociologue, au sein de Sociologie des organisations avec Michel Crozier, j'ai été sollicité comme sociologue pour une recherche qui mettait en œuvre en France une démarche de recherche qui avait eu lieu aux États-Unis sur la créative culturelle. Je ne vais pas rentrer dans toute l'histoire de cette. Ce dont on s'est rendu compte à travers cette recherche, c'est que selon là où on met l'étiage, entre 25% et 35% des Français, aujourd'hui, sont déjà engagés dans des démarches de rupture par rapport à des modèles établis en matière d'éducation des gamins, de mode d'habitat, de transport, de façon de se nourrir, de façon de se soigner, etc., etc. C'est-à-dire que dans tous les champs de la vie collective, il y a des modèles dominants qui sont en bout de course. Tout le monde le sait. Il y a de l'énergie et de l'initiative diffuse dans la société française, comme dans les autres sociétés. Seul problème, mais ce n'est même pas un problème pour moi, c'est une ressource qu'il ne faut surtout pas chercher à fédérer d'en haut, à organiser, à institutionnaliser. Mais il y a cette formidable capacité, non seulement de résilience, mais d'invention. Alors tout ça, il y a des tas de petits réseaux locaux ou transversaux sur les nouvelles pédagogies, sur les nouveaux rapports hommes-femmes, etc., etc. C'est fou ce que cette société invente. Mais elle invente de façon diffuse, éclatée. C'est une force qui ne se manifeste pas collectivement, mais qui est une ressource sur laquelle des initiatives, y compris politiques, devraient pouvoir un jour se brancher. Problème de fond, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'absence d'initiatives dans la société, c'est la sourdité des institutions et du système politique à les voir et à les prendre en compte. Mais il y a même un côté aveugle de nos fonctionnements institutionnels, quels qu'ils soient. Cette dynamique de la société, on ne la connaît pas, on ne la reconnaît pas. Et quand on la reconnaît, on en a peur et on s'en méfie. Et c'est ça le drame le plus grand, je crois, de la situation, de notre capacité à répondre aux enjeux de la crise actuelle. Par rapport à ça, troisième démarche dont je voulais vous parler rapidement, il y a eu en 2010 une lettre ouverte à ceux qui ignorent les banlieues, qui en fait était une lettre ouverte à l'époque au président de la République, Sarkozy, du maire de Clichy-Montfermeil, enfin de Clichy, qui était Claude Dillin, et Clichy, c'était la commune où avaient deux gamins qui se sentaient, qui se croyaient ou qui étaient, je ne me prononce pas, j'ai une idée, poursuivis par la police, se sont réfugiés malencontreusement dans un transformateur électrique, ont été grillés, sont morts. À partir de là, il y a eu la flambée de violence, les fameuses émeutes urbaines de l'automne 2005. 2010, le maire de la ville où ça avait eu lieu, qui par ailleurs était président de l'association des maires de villes de banlieue, une lettre ouverte en disant « La situation des banlieues s'est considérablement aggravée depuis 2005. La prochaine fois, ça va être bien pire. Attention, drame, commune pauvre, on n'a pas de moyens. Et en même temps, population dramatiquement pauvre. Rien ne se passe, rien ne se fait. Les services publics sont en déshérence, etc. Bon, un diagnostic très, très fort, très bien, une belle lettre. Moi, j'étais à l'époque à la présidente de la Fonda, une association de valorisation de l'engagement militant dans la vie associative, et une sorte de boîte à idées pour le monde associatif. Et je me dis, mais il manque quelque chose dans cette lettre qui est formidable. C'est que ce qui manque, c'est simplement que les populations des banlieues en question ne sont pas seulement des gens qui ont des problèmes, ils en ont, Dieu sait qu'ils en ont, mais c'est des gens qui ont des ressources. Dans la survie, qu'est-ce qu'ils inventent ? Qu'est-ce qu'il y a comme petits réseaux locaux complètement clandestins de solidarité ? Qu'est-ce qu'il y a comme initiative, y compris économique ? Pour bien que malgré tout, arriver à ne pas crever. Alors, il y a toute une économie délinquante, de la drogue, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a toute une raison, on en parlait, dans l'habitat collectif. C'est fou ce que les gens s'entraident. Il y a des mères de famille qui, pour éviter que le gamin se fasse raqueter sur le main de l'école, à tour de rôle, s'organisent pour accompagner des petites cohortes de 4-5 gamins à l'école ou pour aller les chercher à la sortie de l'école. Il y a de la solidarité, il y a de l'initiative, il y a de l'imagination, il y a de l'intelligence collective. Si on ne reconnaît pas cette ressource des gens en difficulté comme étant une des ressources essentielles pour sortir de la difficulté par des politiques publiques, si on ne co-construit pas les politiques publiques avec les personnes qui en sont destinataires, ces politiques publiques n'arriveront pas à s'ancrer dans les réalités sociales. Elles patineront, on perdra de l'argent parce qu'il y aura du gaspillage par non-récupération de cet argent comme complément des initiatives. Je retrouve tout à fait les démarches qu'on a eues dans la création d'Initiative France. À partir de là, j'envoie ce texte à quelques réseaux. Donc j'écris un texte un peu de rage. J'envoie ce texte à quelques amis que j'avais, centres sociaux, régies de quartier, prévention spécialisée, les gens qui sont dans les plis, dans le développement social urbain, etc. Et ils me disent tous, mais tu as raison. Alors moi, à l'époque, je parlais d'empowerment, parce que j'avais trouvé le mot anglais qui me semblait, il faut donner du pouvoir au peuple, tout maintenant, aux gens, pour ne pas utiliser un vocabulaire trop stigmatisé. Donner du pouvoir aux gens qui sont concernés par l'action publique. Et ils ont dit, mais tu as raison, il faut, y compris dans nos pratiques, il faut peut-être qu'on change un tout petit peu notre regard et notre façon de faire. Et donc, on s'est réunis, on a retravaillé mon texte, et puis on a fait un manifeste, on a traduit empowerment par développement du pouvoir d'agir, et puis on a fait un collectif, premier collectif pouvoir d'agir, et aujourd'hui, c'est 19 réseaux, ATD Garmonde, etc., qui sont tous... Alors, c'est pas une association. Alors, maintenant, on a créé une association parce qu'on avait besoin d'un minimum de moyens pour accompagner des initiatives de terrain qui nous semblaient particulièrement pertinentes, exemplaires. Et pour recevoir l'argent public, il faut avoir une structure juridique. Donc, on a créé une association alors qu'on ne voulait pas. Parce qu'on n'a aucun pouvoir sur des membres. On a une assemblée. Le seul lieu de décision, c'est une assemblée générale ouverte. Ils participent ceux qui se sentent concernés par la démarche. Individus, associations locales, réseau national. Personne n'est porteur de pouvoir au sein de ce truc. Et puis, on construit des décisions collectives. Et c'est le seul lieu. Et puis, alors, il y a une association, uniquement association de moyens pour recevoir l'argent. Et puis, salarié, une personne. Bon, pour l'instant, c'est une personne. Demain, ce sera plus. Mais voilà. Et c'est une démarche qui, aujourd'hui, je vous dis, il y a 19 maintenant grands réseaux nationaux, une centaine d'associations de territoriales et puis un réseau de personnes impliquées de plusieurs milliers maintenant. Et c'est en train de se développer en 3 ans de façon considérable parce qu'on est sur une démarche simplement. La ressource, elle est chez les gens. Et c'est la ressource, elle est dans la solidarité et l'initiative. Ancrée sur des problèmes concrets, dans une démarche de production, de réponse à des situations, et dans une démarche de solidarité et de, je dirais même, d'économie, non pas immatérielle, hein, d'intelligence, hein, une démarche où le côté droit du cerveau, l'émotion, l'affectif, la gratuité est mobilisée. Et la gratuité comme valeur économique, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire passer dans une tradition d'économiste un peu braquée sur le fric. Alors, l'économie, ce n'est pas que l'argent. L'économie, c'est de la mobilisation de la ressource des personnes. L'intelligence, la volonté, l'énergie, les valeurs. Et la mobilisation de cet aspect non monétaire des relations économiques, ça s'appelle, je suis désolé, l'économie du don. Et il faut oser parler de la gratuité comme valeur économique. Le jour où on aura réussi à faire rentrer ça, on comprendra que le lien social, que tout ça, ça fait partie des valeurs économiques. On sera peut-être dans un début d'une révolution de nos mentalités en matière de développement économique. Voilà, bon, je m'arrête là, j'aurais plein d'autres choses à dire, mais j'ai déjà dépassé le quart d'heure qui m'était alloué.
Merci beaucoup à tous les trois. Et je laisse Pierre peut-être venir avec Monsieur Diver sur la tribune pour pouvoir introduire un peu la journée, mais elle est déjà largement introduite et nous sommes 2 jours en laboratoire, Jean-François, si je comprends bien. Voilà. Hein. Nicolas Diver et Pierre Perrault. Je te laisse, Pierre.
Non, on ne me laisse pas. Nous avons besoin de solidarité, Jackie. Je vais me présenter rapidement. Je suis Pierre Perrault. J'appartiens à la maison qui vous accueille. Je suis urbaniste et sociologue et je participe notamment aux missions qui irriguent l'action et le territoire à partir de ce qui se fait à Mendès et réciproquement. C'est aussi son territoire et son territoire régional qui irrigue Mendès. Mais Didier en a parlé mieux que moi tout à l'heure. Donc là, nous allons avoir, si j'ai bien compris, les consignes de Jackie, trois petits temps. Un premier temps avec Monsieur Alzingre, je crois, avec qui nous allons avoir une petite communication par procédé technologique, par Skype. Et puis nous allons lui poser quelques questions. Il va nous donner notamment un aperçu sur la façon dont on peut développer la créativité. Et à partir de quoi? Alors, si je reprends mes notes, Monsieur Alzingre travaille dans un innovateur, dans un incubateur ou quelque chose qui ressemble à ça dans le pays de Lunel. Et nous allons lui poser une série de questions autour de la façon dont il a développé et comment il a développé cette innovation et ce travail autour de la créativité. Ensuite, nous allons discuter avec lui et notamment avec... Monsieur Payerne de l'incubateur Étincelle de Poitiers. Et puis nous allons ensuite avoir une troisième partie avec plusieurs autres intervenants, dont Monsieur Diver. Ah, c'est lui qui va intervenir maintenant. D'accord. Donc on t'en a transformé le. Voilà. Donc on aura Monsieur Alzingre après, c'est ça? Voilà. Donc changement de petit programme. Voilà. On s'adapte. On est réactif et créatif. Voilà. Donc je vous laisse la parole, Monsieur.
Entendu, merci. Alors je vais. C'est F4, c'est ça, pour le mettre en plein écran. Si vous voulez, je suis peut-être pas très créatif, mais j'ai voulu essayer de faire un PowerPoint. Vous allez voir que je suis très traditionnel, donc j'accepte volontiers le soutien technique. Donc je suis Nicolas Diver, je suis sociologue, maître de conférences à l'université de Créteil, et je m'intéresse à des questions au sens large de la création, de la créativité, notamment de son enseignement. Et je vais intervenir à... notamment dans une optique bien particulière qui est de montrer comment derrière ce terme créativité, en fin de compte, on a pu l'entrevoir déjà, il y a de multiples conceptions, de multiples références. Et en fin de compte, ce terme, même si on peut l'entendre, fédère un certain nombre de pratiques, d'acteurs, d'institutions, eh bien, en fin de compte, renvoie à des contours très flous, et des contours très flous qui, pour autant, ne minimisent pas la propagation de cette notion sur différentes sphères de l'activité sociale. Alors, si on parle de création, de créateurs, voire d'innovateurs, il y aurait des gens qui seraient à l'intérieur et des gens qui seraient exclus, et les gens à l'intérieur seraient nommés, si on suit notamment un auteur sur lequel je vais me mobiliser, un auteur américain qui s'appelle Richard Florida, eh bien, on appartiendrait à la classe créative. L'intérêt, c'est de savoir qui est cette classe créative qui suscite, notamment pour les territoires, une grande attraction, une grande source d'attractivité. Et cet urbaniste, qui est géographe aussi, Richard Florida, a connu un succès important en développant donc cette notion de classe créative. Alors. Donc je l'ai indiqué, Florida, donc c'est un géographe urbaniste qui a développé son travail dans un premier ouvrage en 2002, ouvrage qui a connu un succès important, étant donné qu'il a été diffusé dans une maison d'édition très populaire aux États-Unis. C'est un ouvrage très facile à lire, très séduisant, moins par sa mise en page que par le style et les idées qui sont portées à l'intérieur. Et Florida part d'une idée centrale à partir de trois éléments clés, à savoir, j'y reviendrai, la technologie, le talent et la tolérance, qui seraient des éléments clés associés à la notion de créativité pour le développement des territoires. Alors, tout ça paraît relativement séduisant et Richard Florida a une capacité forte à diffuser son message, alors initialement principalement dans les pays d'Amérique du Nord, et puis maintenant on le voit progressivement être introduit en Europe avec un discours consistant à mettre en parallèle l'existence d'une classe créative et le développement économique des territoires. Et dans cette dynamique-là, le talent, d'après ces termes, aurait un poids important. Et il s'agit donc de voir qu'est-ce qui se cache derrière cette notion de talent. Donc, il part d'un postulat qui est que la croissance économique régionale serait portée par des personnes créatives. Si on s'arrête sur ce postulat et si on est un petit peu ironique, parfois cynique, les personnes qui ne sont pas classées comme créatives, notamment, on va le voir à travers les indicateurs qu'il utilise, ne sont pas vraiment source d'intérêt. Alors, on va le voir qu'à travers les indices qu'il utilise, nous sommes de plus en plus nombreux à appartenir à cette classe créative, mais plus cette classe créative augmente, plus les personnes qui restent en marge sont potentiellement stigmatisées. Et ça suscite un certain nombre de réflexions, y compris de réflexions critiques, sur lesquelles on pourra échanger. Et puis, la créativité serait un pôle d'attractivité. Rien de bien subversif dans ces notions-là, étant donné, en fin de compte, que cela a été évoqué, les changements que l'on observe tout au long du XXe siècle sur la structure économique du pays fait passer, grosso modo, les pays anciennement leaders ou qui sont toujours parfois leaders, notamment en Europe occidentale, d'une économie basée sur l'industrie à une économie accentuant sur les activités à forte valeur ajoutée. Et dans ces activités à forte valeur ajoutée, qui sont valorisées, forcément, il y a des activités qui sont classées comme ayant une forte capacité pour produire de la valeur ajoutée et des activités plus secondaires. Et tout l'enjeu aussi, c'est de savoir comment conjuguer une sorte d'évidence telle qu'elle est présentée
pour les activités à forte valeur ajoutée et une part de la population qui reste quand même, là aussi, en marge de cette situation. Pour autant, voilà, la créativité se diffuse, cette notion se diffuse, connaît un succès important, et les classes créatives, donc, seraient attirées, si on suit toujours Florida, par des villes qui privilégient la tolérance et la diversité. Alors, mon propos sera articulé en trois temps principaux. Il s'agira d'essayer d'appréhender les contours de cette classe créative selon cet auteur. Ensuite, on verra, sur le cas de la France, où se situe cette classe créative. Et enfin, on évoquera quelques critiques qui ont été formulées à l'encontre de cette thèse. Critiques formulées à la fois par le monde académique, mais pas uniquement, parce qu'on va voir que... aussi séduisante que peut apparaître cette thèse, elle suscite un certain nombre d'interrogations tout de même. Alors il faut savoir que la relation entre territoire et ce que l'on appelle maintenant créativité, qui est un vocabulaire qui s'est diffusé récemment, eh bien c'est pas nouveau. Voilà, ici plusieurs intervenants se sont présentés comme sociologues. Vous connaissez Veblen. Pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà, c'est un auteur qui date de la fin du 19e, début du 20e siècle, qui a déjà montré comment le développement des villes, des centres urbains, relevait d'une catégorie particulière de la population, qu'il définissait comme appartenant plutôt en haut, du haut de la hiérarchie sociale, avec un réseau important, une population dotée d'un pouvoir d'achat élevé, dotée, si on reprend un vocabulaire de Bourdieu, d'un capital culturel, c'est-à-dire des personnes qui sont en capacité aussi de transgresser un certain nombre de règles, de produire du nouveau, autrement dit, de s'inscrire dans une démarche qui va en rupture avec ce qui se passe. Donc l'idée qu'il y aurait une transformation culturelle et économique impulsée par le haut n'est pas nouveau. Et d'autres auteurs, plus tard, vont aussi diffuser cette thèse. Pour autant, ils ne vont pas utiliser le terme de créativité et... ces thèses vont avoir beaucoup moins d'aura, notamment parce qu'on était dans une époque où l'industrie, avec une main-d'œuvre ouvrière, eh bien, prospérait. Donc il y avait une cohabitation et la situation du marché de l'emploi était différente et elle est importante à appréhender cette situation du marché de l'emploi. De même, des auteurs américains, là encore, sans vous faire un exposé trop académique ou trop théorique d'une école de pensée qu'on appelle l'école de Chicago, ont montré comment le développement de la ville se faisait par cercle, et plus on sortait du centre, plus la population changeait, plus les intérêts changeaient, plus l'aménagement du territoire changeait, plus les activités économiques aussi changeaient. Et donc, on est là avec Park dans les années 30, et puis on peut revenir sur des situations beaucoup plus récentes, notamment une situation qui vous parle probablement, c'est tout le phénomène de gentrification qui, peut-être, on pourra aussi s'interroger là-dessus, est lié à cet engouement pour cette classe créative. Donc on est là dans une dynamique importante où le développement économique, en fin de compte, parce que c'est ça qui ressort comme étant le cœur de la préoccupation, le développement économique résulte du capital humain, entendu principalement comme le diplôme possédé. Pourtant, on verra que cette affirmation suscite un certain nombre de questionnements, de critiques. Et la première critique que l'on peut formuler, c'est justement sur ce lien qui apparaît fort entre diplôme ou capital humain globalement et développement économique. Et on va voir que cette relation, en tout cas le sens de la relation, n'est pas si évident que ça. Mais avant, on va voir qui appartient à cette classe créative selon cet auteur. Les membres de la classe créative, donc vous pouvez essayer de savoir si vous-même, vous faites partie à la fois d'une classe créative et si vous habitez sur un territoire considéré comme créatif selon cet auteur. Les membres de la classe créative, en fin de compte, doivent, dans leur activité de travail, donc c'est aussi important, c'est par le travail qu'on est identifié comme relevant de la classe créative, doivent, dans le cadre de leur travail, résoudre, nous dit-il, des problèmes complexes, inventer des solutions nouvelles, c'est-à-dire mettre en œuvre des conduites éloignées des pratiques répétitives. Alors certes, Il y a eu des choses qui ont été exposées sur ces conduites qui pourraient paraître nouvelles. Pour autant, il ne s'agit pas uniquement de mettre des pratiques nouvelles. Faut-il que ces pratiques soient reconnues comme nouvelles, sources d'intérêt ? Et c'est tout l'enjeu, là, de repérer les situations qui peuvent devenir situations dites créatives. J'ouvre une parenthèse, il ne s'agit pas de dire que je suis créateur, quel que soit le domaine, et notamment dans le domaine des arts appliqués, mais pas uniquement, pour être connu comme créateur. Donc il y en a une dynamique sociale de reconnaissance institutionnelle par les pairs qui est essentielle. Donc Florida distingue deux groupes de ces individus qui doivent résoudre des problèmes complexes. Autrement dit, déjà, si votre activité de travail renvoie à des choses qui n'apparaissent pas complexes, même si, depuis les années 60, toutes les situations de travail sont de plus en plus complexes, pour autant, elles ne sont pas forcément toujours évoquées comme ça, eh bien, vous n'êtes pas encore dans la classe créative. Donc, on a un premier groupe qui est le cœur, le noyau, l'endroit où il faut être. Ce sont des individus qui appartiennent, nous dit Florida, à la Super Creative Core. C'est une population assez importante, on va le voir, qui est caractérisée par des individus payés pour être créatifs, pour penser, produire de nouvelles technologies ou de nouvelles idées. Donc là, on voit bien comment le rapport, notamment dans un rapport salarial, mais pas uniquement, dans un rapport économique, joue un rôle essentiel pour être reconnu comme créatif. Ce sont des individus qui sont payés pour être créatifs. Ensuite, on a un second groupe qui est des individus, un groupe caractérisé par des individus dont les activités sont principalement des activités de service, au service justement de ces individus payés pour être créatifs. Ce sont des individus qui appartiennent donc aux creative professionals, qui sont des individus principalement dotés d'un diplôme élevé, d'un pouvoir d'achat important, avec des capacités de création élevées dans leur activité. Donc là aussi, on a déjà une autre source de réflexion. C'est-à-dire, la population créative, c'est une population capable de mettre en œuvre des processus créatifs. Donc on est régulièrement aussi dans des processus un peu tautologiques qu'il s'agira aussi de déconstruire, et c'est tout l'enjeu sur l'usage du vocabulaire et la notion performatrice et performative du vocabulaire utilisé. Mais en tout cas, dans ce deuxième groupe, qui on a ? On a des avocats d'affaires, on a des financiers, on a des médecins, on a des juristes, on a aussi des techniciens du spectacle. Donc autant d'activités qui ne sont pas forcément immédiatement, dans une définition un peu commune, qui n'appartiennent pas forcément à la classe créative. Pourtant, si vous regardez par exemple les programmes de master finance dans les grandes universités, on va dire qu'il faut développer des produits créatifs, des produits bancaires créatifs, autant d'éléments aussi qui sont plutôt associés à des valeurs positives. Et on va voir qu'autour de cette notion, les réflexions critiques sont complexes parce que derrière la créativité, il y a toujours quelque chose de positif. Mais au final, si on retrouve ces deux groupes, eh bien, Florida nous dit, fin des années 2000, on a plus de 30 millions de personnes aux États-Unis qui relèvent de la classe créative, soit 30% de la population active. C'est beaucoup, c'est une part qui croît énormément, et si cette part de population dite créative augmente sans cesse, les individus qui ne sont pas dedans sont d'autant plus marginalisés. Parce que plus un groupe se développe, plus la marginalisation est stigmatisante. Donc 30%, mais 30% c'est beaucoup, et ça veut dire aussi que les contours de cette notion de classe créative sont très flous et elles ne sont plus si opératoires que ça. Pour autant, eh bien, ça se diffuse avec des choses qui peuvent paraître, avec notre regard de l'Europe assez souriante et pour autant qui fonctionne comme une sorte de prédiction de programme, notamment pour un certain nombre d'élus locaux en Amérique du Nord, mais de plus en plus aussi en Europe occidentale. Vous avez ces villes qui sont décrites comme cool, selon les termes de Florida. Les villes qui attirent une population créative, ce sont des villes cool. Et des villes cool, c'est-à-dire des villes qui partagent les valeurs de cette même classe créative, c'est-à-dire des individus dotés d'un pouvoir d'achat important, d'un haut niveau de diplôme et en fin de compte un entre-soi qui est cultivé et qui met de plus en plus les individus qui ne sont pas créatifs sur la touche. Et donc l'idée de Florida, c'est implicitement de diffuser un cadre urbain, principalement, il s'intéresse uniquement au territoire urbain, un cadre urbain qui serait donc cool, où cette notion de tolérance serait la clé, et puis avec cette notion de tolérance, on aurait la diversité. Alors, quelles sont les villes créatives, nous dit Florida ? Alors, on va voir si, encore une fois, vous habitez dans des villes créatives. Je l'ai évoqué, il y a trois éléments clés. Le talent, la technologie et la tolérance. Le talent, il l'associe au diplôme. Sous-entendu, on est dans une conception du capital humain fort. Plus vous êtes diplômé, plus vous êtes talentueux. Si, il est toujours intéressant de raisonner dans le sens inverse. Si vous n'avez pas de diplôme, vous n'êtes pas talentueux. Et ce n'est pas uniquement de la provocation. C'est-à-dire qu'on est là dans une logique forte d'association entre deux sphères de la réalité sociale qui n'ont rien d'évident et pour autant qui sont postulées comme allant de soi. Deuxième élément, la technologie qu'il appréhende principalement à travers les brevets déposés, notamment par les entreprises et les universités. Et puis, la tolérance. Les villes créatives seraient des villes tolérantes. La tolérance calculée à partir de trois indicateurs qui sont complexes à appréhender pour nous en France, on va le voir. L'INSEE a essayé de le faire, elle a mis de côté un peu l'un des indicateurs. Premier indicateur, c'est la diversité, je vais y revenir, l'indice gay et l'indice bohémien. Donc on est là sur des notions assez fortes. Alors la diversité, nous dit Florida, c'est la part des personnes nées à l'étranger. Et donc, plus la part des personnes nées à l'étranger est importante, plus les villes seraient considérées comme tolérantes, ouvertes, et donc propres à être considérées comme créatives. Notamment, Florida signale qu'on est là sur une dynamique forte, notamment dans les nouvelles technologies. On attire les populations étrangères. Ce qui est assez drôle d'ailleurs, parce que quand Florida présente ses thèses, notamment devant des élus conservateurs, il y a là régulièrement des chocs de culture entre des positions traditionnelles et puis cette valorisation de la figure de l'étranger. Deuxième élément, l'indice gay. C'est-à-dire la part, là encore, de ménages composés de personnes de même sexe se déclarant concubins. Et là, alors même si on me dit qu'il y a, reste 5 minutes, je vais essayer de vous exposer en quoi ça soulève un certain nombre de questions. L'indice gay, on est là sur une représentation aussi très stéréotypée, consistant à considérer que la norme étant une norme hétérosexuelle, si vous êtes homosexuel, vous transgressez un certain nombre de règles, la créativité est l'expression même de la transgression des règles, l'innovation également se fait dans la famille, et il y a cette représentation que, et c'est une critique portée notamment par Elsa Vivant, qui est une autre urbaniste, qui a écrit un livre qui s'appelle « Qu'est-ce qu'une ville créative ?» Eh bien, Elsa Vivant nous dit « C'est quand même assez curieux de transposer comme ça, comme une évidence, un certain nombre de stéréotypes, sous-entendu, les homosexuels seraient forcément différents des hétérosexuels, ils auraient un mode de vie différent, ils auraient des aspirations différentes, et donc ils seraient l'incarnation même de la créativité. » Et enfin, l'indice bohémien, c'est la part des actifs exerçant un emploi artistique, l'espèce de vie de bohème qui serait forcément, là encore, liée à l'ouverture, la tolérance. Et on aboutit là à un classement fort avec des villes qui seraient créatives, et notamment l'une des villes, la première ville créative serait Washington, où on est là à plus de 40%, enfin près de 40% de population dite créative. Alors en France, qu'est-ce qu'il en est ? Eh bien, en France, l'INSEE, je l'ai évoqué, a essayé de mettre en place aussi des indicateurs. Alors nous, entre guillemets nous, en France, on a mis de côté l'indice gay pour notamment la part des femmes dans la population active. Et il y a un certain nombre d'urbanistes, de géographes qui ont essayé de manipuler ces indicateurs avec la production de classements aussi, parce que c'est là l'enjeu, c'est les classements. Donc aux États-Unis, vous avez des villes qui sont considérées comme plus ou moins créatives, et en France aussi. Alors en France, dans le classement, je n'ai pas vu Poitiers. Mais il y a Paris, première position. Ensuite, Grenoble, Toulouse, Montpellier, Lyon, Marseille, Nice, Lille, Strasbourg, Bordeaux. Là, on est à Bordeaux à 18% de population dite créative. Mais dans ces grandes métropoles, qui ne laissent pas beaucoup de surprises, en fin de compte, il y a des villes plus petites. Par exemple, Senlis, selon l'INSEE, et dans le peloton de tête, Senlis a 23% de population qui est classée comme relevant de la classe créative. Vous avez aussi une ville qu'on n'a pas spécialement en tête quand on parle de classe créative, Lannion. Lannion est considérée comme une classe créative. Enfin, une ville où la classe créative est importante. Alors pourquoi est-ce que des villes comme Senlis ou Lannion apparaissent dans le classement ? Eh bien, ce sont des villes où vous avez des pôles universitaires. Senlis est une ville d'art et d'histoire qui attire une certaine frange de la population. Mais vous avez, par exemple, aussi une autre ville que l'on a tous en tête quand on parle de classe créative, c'est Vernon. Bien entendu, Vernon, où 19% de la population serait de la classe créative. Et à Vernon, vous avez notamment le laboratoire de recherche balistique et aérodynamique qui emploie des ingénieurs, et ces ingénieurs font partie de cette classe créative. Et vous avez aussi les laboratoires de la SNECMA qui se trouvent à Vernon. Donc là, on voit bien comment ces indicateurs, qui ont un rôle politique important, eh bien, suscitent un certain nombre de critiques. Alors, je vais terminer sur ces aspects un peu critiques pour deux ou trois réflexions que je vous soumets. En deux minutes. Florida considère que le développement de la créativité passe par le centre urbain. Pour autant, quand on regarde les travaux des urbanistes appliqués aux États-Unis, un grand nombre de cette population relevant des classes créatives ne souhaite pas intégrer le centre urbain, mais souhaite habiter la périphérie, où ils peuvent posséder un des espaces plus importants, et se pose la question d'une sorte d'homogénéisation de cette population qui est a priori considérée comme ne relevant que du centre urbain. Deuxième critique ou deuxième interrogation que l'on peut porter, quel est le point commun entre un avocat d'affaires, un technicien du spectacle, un artiste peintre ? On peut s'interroger. Et pour autant, toute cette population est rassemblée dans cette classe créative, mais elle est rassemblée pas uniquement sous effet statistique, c'est-à-dire qu'elle devient un enjeu de captation, notamment par les aménageurs urbains, pour répondre à cette population considérée comme particulièrement attrayante et doté de nombreuses qualités. Et bien entendu, vous allez avoir beaucoup de villes qui vont communiquer, ou de territoires qui vont communiquer sur leur créativité, comme les entreprises vont communiquer sur leur créativité. Si encore on raisonne dans le sens inverse, aucun territoire va considérer que ces valeurs très figées seraient des valeurs participant à sa prospérité. Donc on voit là aussi comment on est face à des situations compliquées, avec des vrais effets, et ça sera réellement mon dernier point, des effets sur la politique d'aménagement du territoire aux États-Unis. Notamment, vous avez Baltimore, qui, à partir de 2004, a développé toute une politique d'aménagement urbain avec une pratique qui s'intitule Creative Baltimore. Et là, on a quoi ? On a des politiques de développement urbain avec l'idée d'attirer, de développer l'attractivité de Baltimore auprès des étudiants, auprès des artistes, auprès des entrepreneurs, avec, eh bien, pour attirer cette population, un aménagement urbain piétonnier, des bars ouverts tard le soir, le développement des espaces qui seraient des espaces sans voiture. Et on a la même chose qui se développe à Memphis, où là encore, Florida est à l'initiative de démarches qui vont trouver un écho important. Florida anime un groupe qui s'appelle un groupe de créativité. Il vend ses services chers. Son entreprise prospère. Les municipalités et les territoires répondent, présents, et appliquent, demandent des solutions pour attirer cette population qui est considérée comme forcément la seule capable d'assurer le développement et l'attractivité. Et on a à Memphis des recommandations qui sont diffusées. Par exemple, la création de pistes cyclables, la construction de clubs de nuit et de clubs de loisirs, l'aménagement des berges, autant de situations que l'on retrouve dans les politiques d'aménagement du territoire dans nos nombreuses villes et pas uniquement aux États-Unis. Autrement dit, si là encore on est un petit peu cynique ou ironique, si vous ne faites pas de vélo, si vous ne fréquentez pas les bars et si vous n'allez pas faire des after-work dans des clubs, vous n'appartenez pas à la classe créative et vous n'êtes pas très séduisant. Donc, progressivement, vous allez être mis un peu à la marge des centres urbains avec tout le processus de gentrification, encore une fois, que l'on voit. Donc, j'en termine là. Je voulais attirer votre attention sur, effectivement, cette notion de créativité et de classe créative qui, loin d'être une notion dans laquelle on peut s'emparer facilement. En tout cas, si on voit la volonté affichée par Florida de définir cette population qui relèverait de la classe créative, on voit toutes les conceptions qui se cachent derrière et puis tout l'aspect un peu ironique que l'on peut voir et pourtant ça se diffuse. Je vous remercie.
Merci Nicolas Diver. Je crois que cet exposé était intéressant et riche. Moi, il me fait penser à une autre mode qui est venue des États-Unis dans les années 80, qui était le planning stratégique, qui a fait toute l'efflorescence de ce qu'on a appelé plus tard les maires entrepreneurs dans les années 80-90, avec une vogue de développement urbain très, très importante dans ces moments-là. On voit comme ça régulièrement arriver des vagues d'innovation des États-Unis. Elles ne sont pas toujours inintéressantes. Et je trouve que l'exposé nous permettait d'en comprendre un petit peu les limites autant que l'intérêt. Voilà, donc Jackie, je crois qu'on peut maintenant... Est-ce qu'on passe à un moment de questions ou est-ce qu'on... Voilà, donc le temps qu'on va préparer la liaison avec Pierre Alzingre, je vous propose de vous emparer du micro et de poser ou de demander quelques précisions à Nicolas Diver pour qu'il puisse peut-être compléter son exposé. Est-ce qu'on peut passer un micro pour qu'on puisse enregistrer vos questions. C'est pas seulement pour vous entendre, c'est plutôt pour...
Non, mais c'est une question très, très courte, hein, parce que parallèlement à tout le travail de Florida, il y a eu effectivement ce travail sur les créatifs culturels. Merci. J'aimerais savoir ce que Florida pense et la place qu'il occupe, qu'il assigne à ce mouvement dit de créatifs culturels qui s'est développé également aux États-Unis à peu près à la même époque.
Je ne pourrais pas répondre à la place de Florida, donc je ne sais pas réellement ce qu'il pense intérieurement. Mais si on se base, et c'est ce sur quoi je vais établir ma réponse, juste sur ses écrits, il s'en fiche un peu. C'est-à-dire qu'il déroule son chemin, il développe une entreprise prospère et de plus en plus prospère, enfin, vous avez des sites internet où il se met en scène et la casquette d'universitaire est de plus en plus secondaire et ça fonctionne. Il a une audience forte. Et c'est assez... Avec des recettes qui peuvent paraître simplistes et donc séduisantes, y compris pour les acteurs du développement local. On va attirer... il faut attirer donc des gays. Et ça devient... Mais si vous faites attention sur la façon dont les villes se diffusent, les labels gay friendly, ça se diffuse, c'est pas pour rien. Donc, avec toutes ces représentations associées, c'est-à-dire la transgression, la dynamique, les centres-villes, etc.
Donc la diversité, c'est plus les gays que les latinos, alors aux États-Unis.
En tout cas, pour lui,
il... C'est les étrangers qui viennent d'Asie plutôt que ceux qui viennent du sud des États-Unis.
Il y a les bons et les moins bons. Mais c'est comme en France. Hein. C'est pas la même chose d'être immigré japonais ou immigré d'Afrique subsaharienne. Vous n'êtes pas porteur de la même représentation sociale.
Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, je crois, Auguste Templier.
Oui, comment Jean-Jacques Rousseau, qui a écrit Émile ou de l'éducation, ne veut surtout pas faire d'Émile un âne batté chargé de livres. Et je me suis occupé de promotion sociale dans ma carrière. Je me suis rendu compte que beaucoup d'entrepreneuriat vient d'une revanche sociale. Voilà, donc on n'est pas un âne chargé, batté, chargé de livres. Et donc on n'est pas dans des ridelles de conformisme qui imprègnent fortement peut-être même la classe active. Et on a des destins qui... Moi, j'en étais témoin à des niveaux extraordinaires qui échappent aux classifications de Florida.
Alors, je ne suis pas tout seul ici, sociologue, donc ça me réconforte un petit peu. C'est toujours la tension entre les dynamiques que les sociologues et que la sociologie peut diffuser et puis les cas individuels. Il ne s'agit pas de parler d'un déterminisme absolu. Oui, il y a des attitudes, des conduites, des trajectoires qui varient des grandes tendances. Pour autant, si on reprend par exemple Rousseau ignorait le fait que les filles puissent accéder à l'éducation. Non, Émile, ce n'était pas l'objet des filles. Donc, les choses ont évolué, certes, mais les grandes tendances, elles sont celles-ci. Quand même. Alors, pas forcément celle que Florida montre, mais que la représentation de l'attractivité, elle est très circonscrite. Et puis, dans les trajectoires des entrepreneurs, oui, il peut y avoir des trajectoires atypiques. Pour autant, on est aussi là dans des conduites très normatives. Si vous voulez vous présenter devant des banquiers, etc., il faut savoir construire un discours. Il faut savoir présenter un projet. Donc, il faut rentrer dans des normes. Et ces normes, elles sont pas n'importe lesquelles. Il faut les avoir. Alors, soit vous êtes guidé, soit vous ne l'êtes pas. Mais plus vous pouvez être guidé, plus vous pouvez réussir. Mais si vous êtes guidé, c'est que vous avez réussi à avoir l'information. C'est que l'information est venue vers vous. Vous avez accepté de la saisir. Tous des éléments qui ne relèvent pas de l'évidence. Et donc, on peut voir aussi des trajectoires qui sont des trajectoires assez spécifiques. L'idée d'accès au droit, par exemple, il ne suffit pas d'ouvrir un accès au droit pour que les gens puissent se saisir d'un droit. Il faut s'autoriser à accéder au droit.
Merci, Nicolas. Je crois que là, on est prêt pour passer à la suite et à l'entretien.
Monsieur Payerne peut peut-être monter.
Oui.
Reste avec nous. Merci.
Reste avec nous. Oui, oui.
Donc. Juste, j'en profite pour vous dire que selon l'INSEE, on est, je ne sais pas si on est, mais en tout cas, il y a 18% de la population française qui relèverait de la classe créative. Donc, on est à 12 points de moins qu'aux États-Unis. Il faut encourager les études.
Merci, Nicolas Diver. On va remercier aussi Monsieur Pierre Alzingre, qui est le directeur, je crois, de Via Innova au pays de Lunel. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous nous recevez bien ? Ah, il n'est pas encore là. Donc, on va réessayer. On vous laisse établir la connexion. Il y a des bruits, donc c'est bon signe. En tout cas... On espère. C'est les mystères de la technologie ou...
Le principe, c'est comme un téléphone normal. Si la personne a le bout,
elle n'est pas à l'autre bout pour l'instant encore. Est-ce qu'on a son portable ou est-ce qu'on peut vérifier qu'il est disponible ? Il va arriver. Il va nous rappeler. Donc, il n'y en a pas pour longtemps, je suppose. Hein ? Peut-être a-t-on le temps d'une nouvelle question auprès de Nicolas, le temps de... Non pas meublé, mais d'occuper.
d'abord un remerciement, puis ensuite une question. Le remerciement, c'est que nous sommes en Poitou-Charentes, c'est-à-dire une région très, très rurale.
Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il
oui,
vous
pardon.
Plaît, parce que moi, je sais qui vous êtes.
Bien mais... sûr, oui. Michel Briand, je suis un littéraire, mais je me soigne. Je suis vice-président délégué à la recherche de l'Université de Poitiers. Ce qui m'a plu dans votre intervention, c'est que je pouvais envisager que la région Poitou-Charentes avait des centres de créativité, mais qui n'étaient pas nécessairement dans les centres urbains. Hein. Nous avons un centre d'art contemporain à Rouillé, nous avons, enfin voilà, ce genre de choses, et je trouvais des éléments intéressants à ce sujet. En revanche, pour aider, pour que les sciences humaines, par exemple, les sociologues, puissent aider les politiques dans leur décision, la prise de décision en termes d'aménagement du territoire, est-ce que, par ailleurs, au-delà des critiques nécessaires à l'égard des indicateurs proposés par Florida, vous auriez des propositions d'indicateurs qui seraient intéressants, utiles, justifiés, qu'on pourrait critiquer, mais peut-être moins que ceux de Florida. Voilà.
En essayant d'être un petit peu court, parce que M. Elzing peut vous interrompre. Donc, allez-y.
Alors, d'une part, c'est très compliqué de répondre rapidement à cette question. Alors, je ne vais pas en profiter pour prendre la poudre d'escampette, mais c'est rarement... Ah, il y a M. Alzin qui va m'interrompre. Merci. Non, je plaisante. On est là sur des tensions. Et je réponds...
Entendez ?
Oui, on est en train de répondre à une question et on vous prend tout de suite, si vous avez une seconde.
On est dans les tensions entre des attentes d'opérationnalité forte de la part des pouvoirs publics et des logiques de...
Est-ce que vous m'entendez ?
Oui, oui, nous vous entendons. Est-ce que vous avez notre retour ? Lui ne nous entend pas. Alors... Est-ce que vous pouvez présenter rapidement Via Innova, M. Alzing ? On est ravis de vous avoir avec nous. On vous donnera la possibilité de... prolonger votre réponse tout à l'heure. Est-ce qu'on a un retour ou est-ce qu'il faut lui envoyer un petit SMS pour qu'il puisse répondre aux questions ?
Galère. Je suis désolé, je ne sais pas si vous m'entendez ou pas.
Absolument, voilà. Nous vous entendons. On peut lui poser peut-être une première question qui est celui du statut de la pépinière, de nous expliquer un petit peu
la son technologie dans nos campagnes.
Son fonctionnement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le statut de votre pépinière et ses modalités de fonctionnement ?
Vous m'entendez ?
Oui, oui, oui.
Je crois que vous m'entendez là.
Oui. Est-ce que vous nous entendez ?
Vous m'entendez, c'est ça ? On va y arriver, on va y arriver. Hein.
Oui, mais il ne m'entend pas, Jackie.
Là, je vous entends, enfin, j'entends du bruit. Je ne sais pas si vous m'entendez, vous ?
Oui, on vous entend. Avez-vous notre retour ?
J'ai votre retour, tout va bien. Est-ce que vous avez de l'image ?
Oui, enfin, on a ce qu'il faut. On va vous demander, si vous voulez bien, de nous présenter le statut de votre pépinière et ses modalités de fonctionnement.
Alors bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens vraiment à m'excuser de pas être avec vous aujourd'hui. Nous sommes une pépinière très active, mais également très petite. Nous sommes un service de la communauté de communes du Pays de Lunel. Ce service a été créé en 2003. L'idée était de créer une pépinière d'entreprise innovante. Entre sur un territoire qui est coincé entre guillemets entre deux grandes métropoles que sont Montpellier et Nîmes. Montpellier et Nîmes qui sont des fleurons en Languedoc-Roussillon dans la création d'entreprises et notamment par des incubateurs de start-up de renom que sont le BIC et que sont Innovop. Et les élus de ce territoire n'ont pas voulu que leur territoire devienne un territoire dormant, un territoire dortoir. Et voulait au contraire, par la mise en place d'un SCOT, qui a été un des premiers en France, voulait au contraire afficher une vision de territoire différente. Les élus ont voulu, dès le départ, il y a plus de 10 ans maintenant, veulent un développement économique beaucoup plus harmonieux pour l'homme et son environnement. En gros, aidons les entreprises à se développer sans multiplier les zones bétonnées, sans multiplier les zones à goudron. Nous sommes un espace de respiration, un poumon vert entre Montpellier et Nîmes. Et essayons aujourd'hui de conserver cette qualité de vie et cette qualité d'environnement. Alors, pour créer, pour que, conserver des salariés hein, et ne pas devenir un territoire dormant, surtout quand on est aux approches de grandes collectivités, le péril est grand de devenir une base arrière logistique. C'est un peu ce qui s'est passé au début avec des grosses zones logistiques de distributeurs. Heureusement, très vite, cette pépinière et ce SCOT ont imposé un nombre d'emplois à l'hectare par rapport à des zones et qui ont fait que cette pépinière en 2003 a vu le jour. Ce service de la communauté de communes aujourd'hui compte 5 personnes. Un des plus petits budgets du Languedoc-Roussillon. En termes d'activité, nous accompagnons 60 projets et entreprises, des connus, des moins connus, dans le B2B, beaucoup dans le B2C, avec une innovation marquée pour le marketing de l'innovation et l'innovation de services.
Pouvez-vous nous préciser ce que vous appelez B2B et B2C ? Tous nos auditeurs ne connaissent pas ces termes.
D'accord. Alors B2B, c'est business to business, c'est-à-dire c'est principalement les entreprises qui sont aujourd'hui hébergées dans la plus grande majorité des incubateurs en France. Un incubateur sert donc à un porteur de projet à développer son idée dans le meilleur environnement possible. Et le B2B, c'est que vous allez faire un produit qui va être vendu à une entreprise et non pas à un consommateur final. Nous, aujourd'hui, on s'est aussi démarqué en adressant, ou en tout cas en s'adressant à des créateurs qui allaient vers le B2C. Tout ça parce que, on va dire que les deux directeurs qui se sont succédés, mon précédent.
B2C, pour vous, c'est le business to consumer, alors.
Exactement, business to consumer, c'est-à-dire une marque de cosmétiques qui vend comme Alloré, la marque d'Alexandra Cross, la marque à base de cosmétiques, qui aujourd'hui vend directement dans les Sephora et dans certains réseaux de distributeurs. Donc voilà, principalement en France, les incubateurs, c'est du B2B. On va de plus en plus vers le B2C parce qu'aujourd'hui, on a acquis des méthodes, des savoir-faire, des outils qui peuvent aider, et ça, c'est important, qui peuvent aider au développement de toute entreprise, qu'elle soit B2B, B2C, C2C, B2A. Enfin, alors, C2C aujourd'hui, c'est la grande mode. En tout cas, c'est un nouveau canal de distribution. C'est consumer to consumer. C'est leboncoin.fr, c'est la consommation collaborative dans son.
Ah. Voilà. Est-ce que vous pourriez simplement nous préciser un petit peu sur les 60 entreprises, ce que vous leur proposez ? Est-ce que c'est simplement des locaux ? Est-ce que vous avez un fonctionnement de type service, de l'animation ? Qu'est-ce que vous leur proposez ? Quelle est l'offre ? Quel est le fonctionnement de la pépinière ?
D'accord, très bien. Alors écoutez, en marketing, il y a une stratégie qui s'appelle Océan Bleu. Océan Bleu, Océan Rouge. Vous pouvez trouver tous les renseignements pour cela sur le net. C'est ce qu'on a commencé à développer il y a 3-4 ans. Quand vous êtes dans un secteur concurrentiel intense comme nous le sommes en Languedoc-Roussillon, c'est-à-dire avec des villes qui ont un très gros marketing territorial comme Montpellier avec sa campagne Montpellier Unlimited, comme Nîmes Métropole, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous reste pour exister ? Et qu'est-ce qui vous reste finalement pour mettre en place cette vision des élus, cette vision d'un développement économique différent ? Une stratégie océan bleu, c'est garder l'essentiel d'une activité tout en se différenciant de la concurrence. Et nous, cette différence, elle correspond parfaitement à nos valeurs. Aujourd'hui, nous ne nous occupons pas de la techno. Nous ne nous occupons pas de l'innovation. Notre priorité, elle va à l'humain. Alors, on dirait un grand discours publicitaire quand je vous dis ça, mais c'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, les comités de sélection et le process de sélection qui est en place à Via Innova, c'est pour une seule chose, c'est pour valider, qualifier une équipe et notamment un créateur et son associé dans sa capacité à mener vite et bien une entreprise. Vite et bien, pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on s'est fait une spécificité aussi d'accueillir des gens qui ne sont pas foncièrement innovants. Un exemple, Thomas Lebar, qui vient nous voir il y a 2 ans et demi avec son entreprise, avec un projet d'entreprise dans les anesthésiques animaux. Parce qu'il faut toujours endormir des souris et des rats dans les laboratoires, notamment pour la recherche contre le cancer. Quand il vient nous voir, il nous dit « Moi, aujourd'hui, je vends du gaz et du matériel pour endormir les animaux dans les laboratoires. Et je fais ça très bien. » Et c'est vrai qu'il est reconnu. Il est reconnu dans son réseau pour être un des meilleurs. Mais aujourd'hui, c'est nous, ce qu'on peut lui apporter à cette personne et ce qu'on lui a apporté, c'est non pas, c'est un déjà, la location d'un atelier à un prix, on va dire, extrêmement bas, puisque le poste location et le poste immobilier dans une entreprise, c'est tout de suite, juste après, bien souvent, le poste des ressources humaines. Donc, on a pu lui apporter la location d'un espace à prix modéré, très modéré. Mais surtout, ce qu'on lui a dit, c'est que ce qu'on vous demande, c'est qu'en contrepartie de cette location, en contrepartie de notre accompagnement, et je vais vous le détailler en quoi il consiste, on va vous demander de rentrer dans une démarche d'innovation. Et aujourd'hui, vous êtes dans une pépinière qui va vous aider en cela. Vous aider en cela, c'est quoi? C'est que notre process d'accompagnement va vérifier la capacité à un créateur de mener une entreprise à potentiel. Ce qui nous intéresse, et c'est notre spécificité, on est payé pour la région et par l'Europe en cela aussi, à travers des fonds FSE, c'est accompagner des gens qui sont innovants et à potentiel. Thomas Lebar a un gros potentiel, la preuve, il nous a écoutés entre guillemets, et puis surtout c'était quelque part sa vocation, il a développé son activité entre guillemets alimentaire, de vente de gaz et de matériel à des labos, et à des cliniques vétérinaires, mais surtout, il a mis en place une démarche d'innovation dans son projet qui fait qu'aujourd'hui, il construit ses propres matériels pour endormir et il vient de déposer son brevet. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a du potentiel, mais qui passe à travers les grilles de tous les systèmes d'accompagnement, aujourd'hui, nos pépinières, nos territoires peuvent lui apporter un accompagnement spécifique qui va l'aider dans sa démarche d'innovation. Nous avons dans les incubateurs les outils, les méthodes, les savoir-faire, les contacts et les réseaux pour aider quelqu'un qui a du potentiel à se développer.
C'est du prêt-à-porter.
Aujourd'hui, comment on... Voilà, allez-y.
C'est du prêt-à-porter. Ça se fait en fonction des entreprises et de leur domaine d'activité. C'est donc pas quelque chose de...
On est... Oui. Ouais. On est... J'ai juste un décalage. Donc, oui, bien entendu que c'est du prêt-à-porter parce qu'on est dans l'humain. Et c'est ce qui fait la beauté et une richesse et la richesse inouïe de ce métier qui fait qu'on commence très tôt, on finit très tard et que quelquefois on n'endort pas la nuit. On a un métier dans l'incubation, c'est d'accompagner des gens qui ont des idées un peu folles, de voir si ces idées correspondent à de vrais problèmes, si leur idée peut résoudre ces problèmes-là et comment on peut transformer tout cela en modèle économique. Et bien, notre accompagnement, il est basé sur ce cheminement de pensée. Donc, quand Thomas est arrivé à la pépinière, on a eu un premier entretien avec lui qui a servi à définir, on va dire, son entreprise ou en tout cas son projet d'entreprise. On a mis une quinzaine de jours à vérifier le potentiel de son idée et la véracité des problèmes et puis la taille des problèmes. Et sur un deuxième entretien, on a vérifié avec lui, on a continué à échanger. Et puis tout de suite, sur le troisième entretien, c'est un comité de sélection. On n'a pas inventé l'eau chaude, hein, ça se fait comme ça dans toutes les pépinières de France et d'ailleurs. Un comité de sélection, nous, on l'a nommé Paris. On fait le Paris, un pacte, accompagnement, recherche, innovation, c'est un acronyme. On fait le pari qu'on va servir à quelque chose au créateur et que le créateur va tenir la pression. Les équipes qui se sont succédées dans cet incubateur viennent tous du privé. Je pense que ce n'est pas un scoop, mais on y retournera tous un jour ou l'autre, parce qu'à force de côtoyer des créateurs, et bien c'est vrai que ça tente beaucoup. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est bien souvent la pression, c'est bien souvent l'exigence, l'exigence de la performance et du résultat qui fait qu'un créateur d'entreprise va développer son projet encore plus vite et encore mieux que les autres.
Est-ce que vous accueillez tout type de porteurs de projets, des culturels, des sociaux, des humanitaires, des plus bizarres encore, ou est-ce que vous avez une typologie plutôt de recherche, en tout cas d'activité marchande déjà bien identifiée, enfin, quels sont un peu les types de porteurs de projets que vous accueillez et que vous accompagnez?
Alors aujourd'hui, vous savez, quand vous êtes entre deux grandes villes, la tentation est grande d'accueillir ceux qui n'ont pas été pris à droite et à gauche. C'est ce qui a été fait à un moment ici, mais aussi dans beaucoup d'incubateurs où on va dire on a élargi la taille des filtres ou la taille du tamis. Ça élargit seulement les risques d'échec. Aujourd'hui, on n'accueille pas des gens, on va dire, sur un domaine d'activité précis. On accueille des humains et on accueille des talents et des vraies compétences. Et c'est pas un slogan publicitaire. Hein. On accueille des gens qui ont un potentiel de créer des entreprises et des entreprises qui vont avoir une vocation nationale et internationale. Donc oui, nous accompagnons aujourd'hui énormément de gens et de créateurs dans l'innovation de services. dans l'innovation web, dans la création de marques cosmétiques, dans la création de, d'un système, par exemple, récemment, qui permet d'échanger des places de parking, qui permet d'échanger donc des réseaux, des projets d'économie sociale et solidaire en co-accompagnement avec un incubateur régional qui est à Montpellier. Mais aujourd'hui également, et c'est cette stratégie Océan Bleu qu'on a mis en place, on a été là où les autres ne voulaient pas aller et faire ce que les autres ne voulaient pas faire. Donc cet accompagnement personnalisé, ce coaching personnalisé, et puis en identifiant 5 filières maîtresses de notre territoire qui sont ancrées dans l'histoire de notre territoire. Nous étions et nous sommes toujours des agriculteurs. L'agriculteur dans la nouvelle économie, elle s'appelle la green tech, elle s'appelle l'agronomie. Et pour nous, ça s'est traduit par opportunité, parce qu'une des premières entreprises à venir ici, ça a été une créatrice dans la cosmétique. On l'a aidé à créer son laboratoire de cosmétique. Et puis aujourd'hui, ce qui permet le lancement de la filière régionale de la cosmétique naturelle en Languedoc-Roussillon à travers la réalisation d'un parc qui est en train de sortir de terre, un mini-parc d'activité dédié à la cosmétique. Ensuite, nous sommes un territoire de tourisme. Aujourd'hui, nous accueillons des projets dans l'innovation de tourisme et dans l'innovation du tourisme. Un exemple, nous avons aujourd'hui le leader national et international du voyage à vélo en France qui s'appelle Sirpeo et Active for Adventures, qui vient d'acheter sa filiale américaine. Nous avons également la première agence de voyage par la photographie qui s'appelle Aguila Voyage. Nous avons également les organisateurs du FIS, le Festival International des Sports Extrêmes, Hurricane, qui là est accompagné par la pépinière avec un nouvel outil qui s'appelle l'accélérateur. Donc ça, cosmétique, tourisme, web et sport. Nous avons également une troisième filière qui est le web en général et l'innovation de services à travers les projets dont je vous décrivais juste avant. Une filière agroalimentaire qui aujourd'hui n'est pas adressée par beaucoup d'incubateurs, alors que vous pouvez innover dans l'agroalimentaire. La preuve, la petite marque Timbo qui se développe très bien aujourd'hui dans nos locaux et qui propose une bière de spécialiste à base de Guarana. Le Guarana étant du Guarana bio qui pousse en Amazonie et qui rend cette bière euphorisante. Et puis la dernière filière, on y tient particulièrement parce que c'est par opportunité et par affinité, c'était aussi en partie mon ancien métier, c'est une filière design et déco qui là aussi n'est pas adressée dans d'autres incubateurs. Cette filière déco aujourd'hui accompagne l'entreprise Lily Penso qui est le leader en France de la décoration de la chambre pour enfants, présent chez Alinéa, présent chez Prémaman, etc., etc. Et puis le dernier né, on va dire, le dernier accompagné, c'est l'entreprise Auré Design qui propose aujourd'hui des claviers en bois qui vend 80% de sa production aux États-Unis. Donc vous voyez des filières différentes avec des porteurs de projets de tous horizons, mais le seul point commun entre eux, c'est un potentiel et puis des valeurs. Venir à la campagne pour créer son entreprise, c'est ne pas faire une excursion pour repartir ensuite. C'est une vraie destination, c'est un choix de vie, c'est un autre développement économique.
Est-ce que vous pouvez nous indiquer un peu comment est-ce que vous partagez, comment est-ce que vous diffusez ce que vous venez de nous expliquer, ces valeurs? En quoi est-ce que la pépinière participe de la mise en place d'une ambiance? Comment est-ce que se multiplie l'ambiance réduite de la pépinière au reste du territoire? Comment est-ce que ça diffuse? À quelles conditions?
Alors, tout à fait. Ça, c'est vraiment une excellente question et c'est ce qui fait la force. C'est ce qui fait la force de nos territoires. J'écrivais récemment que les territoires sont aux métropoles ce que les startups sont aux grands groupes. Et c'est tout à fait vrai. Dans les grands groupes, et j'ai travaillé dans un grand groupe et j'ai travaillé dans une startup, dans un grand groupe, il y a beaucoup d'anonymat, il y a beaucoup de guerre. On sort les rétroviseurs pour savoir d'où viennent les couteaux. Dans une startup, on est obligé d'être solidaire, on est obligé d'être réactif, on est obligé d'être proche parce que les résultats, ils sont immédiats. Une mauvaise ambiance entre deux créateurs ou une équipe de quatre, eh bien, c'est tout de suite les résultats de l'entreprise qui dégringolent. Une mauvaise ambiance dans un grand groupe, ça fera que ça va s'étioler au fur et à mesure du temps. Sur nos territoires, la force de nos territoires, c'est nos élus. Moi, ça me fait toujours rire quand j'entends des partis politiques très poujadistes qui disent que les politiques, c'est tous pourris, c'est tous des catastrophes, c'est tous... Écoutez, je veux pas être un peu utopiste, mais moi je suis confronté à des élus tous les jours qui, parce qu'ils sont élus, se retrouvent quelquefois avec d'un coup comme ça un tiers de la population de leur village contre eux, parce qu'il y a un tiers qui ne vote pas pour eux. des élus qui sont des maires de villages de 1500 habitants, qui doivent gagner quelque chose comme 300 euros d'indemnité de maire, et qui se retrouvent à gérer des problèmes, qui se retrouvent à être au tribunal s'il y a un gamin tombe du toboggan, et qui, malgré ce, viennent avec nous et participent à la construction d'une ambiance et d'une autre vision sur notre territoire. Si vous avez une vision d'apporter un autre développement économique, c'est-à-dire de retenir des créateurs, d'essayer de développer des entreprises sur nos territoires, et bien comment vous pouvez le faire? Vous pouvez le faire en unissant tous les talents au succès de vos entreprises. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Donc, d'une petite pépinière, on a développé des outils pour augmenter la convivialité, les échanges, et surtout à faire que nos territoires deviennent des lieux de vie et des lieux où se croisent des lignes de vie. Qu'est-ce qui est l'avantage d'une grande ville en stratégie ensemble? C'est quoi? C'est même pas une stratégie. L'avantage, c'est la frénésie. C'est la multiplicité des contacts. C'est que vous avez en permanence des créateurs de toutes sortes. Vous avez une richesse dans les personnes et dans les acteurs. L'inconvénient dans nos campagnes, c'est la solitude, c'est l'éloignement, l'isolement. Aujourd'hui, mettez en place des outils de communication à haut débit qui vont vous permettre ensuite de créer des lieux, des cadres de vie, des espaces de coworking qui vont permettre aux gens de venir travailler à la campagne et de retrouver aussi, non pas cette frénésie, mais on va dire cette proximité, cette solidarité. Donc dès 2009, quand on a repris la pépinière, on a créé la pré-pépinière. La pré-pépinière, c'est une salle de réunion qui fait 40 mètres carrés et dans laquelle on offre le gîte et le couvert à tous les gens qui réussissent le pari. Donc avant de louer un bureau à des porteurs de projets, on leur accorde un hébergement gratuit, entre guillemets, avec un bureau, avec une ligne Wi-Fi de haut débit et avec un téléphone. D'ailleurs, le téléphone, bien souvent, ils ont leur portable, ça leur suffit largement. Donc finalement, nous, ça ne nous coûte pas très cher. Et ça fait que notre pépinière, en permanence, vous avez 20, 30, 40 personnes qui s'y croisent. Donc des talents qui se croisent, ça fait des opportunités qui se multiplient. Et ça fait qu'aujourd'hui, nos projets ne marchent rarement. Enfin, on ne va pas dire qu'ils ne sont jamais seuls, mais en tout cas, ils marchent rarement seuls. Cette pré-pépinière aujourd'hui, ça nous a donné une idée encore plus folle. C'est de créer, parce que le maire d'un village, de Lunel-Vielle, qui est juste à côté de la ville de Lunel, se retrouve avec une école en centre-ville, vide. Une école de 1896, garçon-fille, un lieu qui est magnifique, magique. Et dans cette école-là, il nous l'a donné parce qu'on n'avait plus assez de bureaux à louer. Mais au lieu de louer des bureaux, on s'est dit, et si on en faisait un lieu, un espace dans lequel les gens vont pouvoir venir pour créer et pour développer leur entreprise. Et c'est le projet Venturi, c'est l'accélérateur d'entreprises et territoires qui est né à travers un lieu physique. Cette école, aujourd'hui, elle est en plein travaux. Elle verra le jour normalement en 2014, on va dire en octobre 2014, d'ici un an. Ce lieu, c'est un lieu destiné à la créativité pour les porteurs de projets, pour les entreprises.
Qu'est-ce que vous appelez créativité? En quoi est-ce que, là vous venez beaucoup de nous parler un peu accompagnement, mais on sent des méthodologies qui peuvent être à la fois éducatives, de formation ou de structuration organisationnelle. Quelle est la place de la créativité? En quoi vous les dopez, vous les accompagnez, où est-ce que vous travaillez la notion de créativité dans cet accompagnement?
La créativité, elle se fait en tête-à-tête et elle se fait par groupe. Alors en tête-à-tête, les rendez-vous qu'on a avant le premier pari et qui suivent ensuite, hein, puisque c'est un coaching de longue distance, c'est bien souvent des séances de créativité. Alors, l'avantage d'avoir travaillé dans le marketing et l'avantage de multiplier les formations pour une équipe en termes de techniques de créativité, c'est que vous allez pouvoir profiter à fond du potentiel des entrepreneurs. Si vous leur apportez des outils, mais c'est comme dans le management ou dans la gestion ou dans les ressources humaines, si vous leur apportez des outils de créativité, mais ils vont créer. Et en même temps, vous devez utiliser aujourd'hui ce que la génération Y utilise à fond, c'est le collaboratif. Quasiment toutes les semaines, vous pouvez le voir sur notre page Facebook, hein, on fait des apéros dînatoires brainstorming. Les deux derniers qui ont eu lieu, on a trouvé le nom d'une application de nos tourismes que Marie Daigneault développe dans la pépinière. La deuxième séance de brainstorming, c'était la semaine dernière. C'était pour trouver un nouveau nom à l'application de géolocalisation qui s'appelle Unleash. Le nom Unleash ne sonne pas assez, il fallait trouver un autre nom. Et bien là, on provoque un instant de convivialité. Chacun amène quelque chose, un repas tiré du sac. On utilise la grande salle de réunion de la pépinière. Et puis, vous verrez la photo, on était une quinzaine. Et puis, séance de brainstorming, technique métaplan, technique… Donc oui, la créativité est essentielle. Et je dirais que ce qui est important, vous voyez, en ce moment, je suis en train de recruter un nouveau chargé d'affaires parce que le dernier chargé d'affaires a créé son entreprise juste à l'étage. Et ce chargé d'affaires, il était important pour moi d'aller le chercher dans le métier du marketing. C'est exactement ce qu'il a fait, c'est sa formation. Il a également créé deux entreprises. Son dernier projet, il l'a mis de côté pour l'instant. Et imaginez, vous avez en gros en France une entreprise sur deux qui ne va pas au bout, ou en tout cas est beaucoup plus dans les projets. Donc ça veut dire que les territoires aujourd'hui ont des mines d'or à travers des créateurs d'entreprises ou des porteurs de projets qui se retrouvent finalement entre deux eaux et qui sont de vraies richesses pour nous pour, on va dire, compléter nos équipes. Nos équipes, elles doivent comprendre des organisateurs, des gestionnaires, des gens qui ont des compétences sociales et juridiques, mais vous devez à tout prix intégrer des gens qui ont des notions de marketing. Nous, on a été jusqu'à créer, parce qu'à côté de ça, j'ai une activité de prof de marketing, on a créé même une méthodologie qui s'appelle Success Wheel. Et Success Wheel, c'est un guide marketing de création d'une entreprise et qu'on a mis à disposition de tout notre réseau de pépinières en Languedoc-Roussillon qui s'appelle Synersud et maintenant qui est adopté par certains Startup Weekend et par l'événementiel qu'on a créé avec l'accélérateur qui s'appelle la Startup est dans le pré.
Je vais vous proposer là une question. Je vais vous présenter Jean-Claude Payerne, qui est le directeur de l'incubateur Étincelle en Poitou-Charentes. Et on avait organisé un petit peu une discussion entre lui et vous. Donc, je vais lui passer la parole et vous allez pouvoir discuter sur une ou deux
très
thématiques.
Très bien.
Oui, bonjour Pierre.
Bonjour, enchanté.
Oui, enchanté. Je n'avais pas eu le temps de vous appeler préalablement. Je pensais vous rencontrer aujourd'hui. Votre évocation de pépinière est très, très intéressante. Moi, ça me fait aborder une ou deux questions sur votre mode de fonctionnement. Il est très important de pouvoir mailler sur le territoire les différents outils d'accompagnement pour le très bon développement des projets qu'on accompagne. Sur la région Poitou-Charentes, nous, on a la chance d'avoir un maillage fort, incubateur au pluriel et puis pépinière d'entreprise qui permet de mutualiser moyens, ressources, accompagnement, financement pour les entreprises. J'ai cru comprendre que sur votre territoire, vous étiez peut-être un petit peu coincé entre deux grosses métropoles, Montpellier et puis Nîmes. Est-ce que... Vous disiez également que votre souhait, ce n'était pas de devenir un territoire dormant. Donc, j'ai bien compris que l'accompagnement humain, la convivialité ou la solidarité vis-à-vis de vos porteurs de projets, de vos entrepreneurs est très important. Comment arrivez-vous à fonctionner avec vos homologues, donc incubateurs, des métropoles voisines, autres pépinières? Comment arrivez-vous à fonctionner avec elles pour pouvoir au mieux ouvrir vos porteurs de projets, vos entreprises sur l'ensemble de ces outils, sur l'ensemble de ces accompagnements? Ma deuxième question est également... Ok, je vous laisse répondre sur la première question.
Si vous voulez. Écoutez, c'est... si on a cette vision d'un autre développement économique et d'unir tous les talents... aujourd'hui, on a la chance d'être dans une région, la Languedoc-Roussillon, qui a beaucoup d'avantages et beaucoup d'inconvénients. Les inconvénients, c'est qu'on est la première région en termes de chômeurs en France. On est également, je crois, la région, l'avant-dernière région la plus pauvre de France. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les politiques ont compris le défi, ont compris le pari, et ont créé un réseau de soutien aux entreprises qui est assez dense et qui travaillent véritablement ensemble. Les incubateurs et les pépinières d'entreprise sont supportés, entre guillemets, par une association régionale qui s'appelle Synersud, qui fait un boulot remarquable. J'en suis d'ailleurs un des administrateurs et beaucoup de membres des directeurs des pépinières sont membres de cette association Synersud. Cet après-midi, il y a une réunion à Béziers de toute cette association où tous les mois, on partage entre directeurs de structure, où tous les mois, on échange les bonnes pratiques, où on forme nos chargés d'affaires, où on essaye de niveler par le haut notre accompagnement. Ce qui n'empêche pas de la coopétition. Quand vous êtes juste à côté d'un monstre comme Montpellier, vous battez non pas sur des idées, des innovations, vous battez sur des talents. Aujourd'hui, on a un avantage, c'est d'avoir un réseau régional d'innovation qui fonctionne bien. Le bâtiment dans lequel est installée la pépinière d'entreprise Vienova, c'est également un pôle de création d'entreprise dans lequel sont présentes différentes structures que sont la Chambre de commerce, la Chambre de métiers et la BGE. Et aujourd'hui, on a institutionnalisé des rendez-vous qui s'appellent des rendez-vous croisés, qui permettent de recevoir des porteurs de projets à plusieurs. Donc quelqu'un de la CCI, quelqu'un de la Chambre de métiers, la BGE via Innova. On va accueillir comme ça tous les quatre un porteur de projet qui d'un coup va se retrouver avec quatre réseaux et quatre accompagnements différents devant lui. Ce qui fait qu'en 2009, la pépinière via Innova accompagnait 30 porteurs de projets. C'est-à-dire on recevait seulement 30 porteurs de projets par an, ce qui était dramatiquement bas. Les derniers chiffres, c'est 115 à ce jour. Et il nous reste encore 2 mois. Comment on a pu faire ça ? C'est que finalement, on a augmenté notre capacité d'accueil de personnes tout en augmentant les possibilités de fléchage et d'orientation vers d'autres acteurs. Ce qui fait qu'on est beaucoup moins seul sur nos campagnes parce qu'on travaille tous ensemble. Alors, compétition d'un côté avec les gros incubateurs qui se battent parce que les territoires se battent et puis les porteurs de projets, les entrepreneurs savent très bien y faire. Ils se battent pour attirer les meilleures entreprises et les meilleurs talents chez eux. Nous, on a décidé de décaler cette concurrence ou en tout cas de décaler notre accompagnement en disant « quand vous venez sur notre territoire, nous sommes tous unis à votre succès ». C'est exactement ce que l'on montre à travers ces rendez-vous croisés. France 3 est venu nous filmer pour les 10 ans de la pépinière et filmer un entretien. Il est présent sur la chaîne YouTube de la pépinière. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qui fait la différence, mais sur nos territoires.
Je vais vous interrompre un petit peu. On va passer à la deuxième question rapidement de notre ami Jean-Claude Payerne. Et puis, on va vous demander une réponse courte parce qu'on aura besoin de passer à la suite de notre journée. Merci encore. Très bien.
Donc, deuxième question courte sur l'incubateur Étincelle. C'était une question sur les profils des porteurs de projets. Nous, on a un retour d'expérience que sur les entrepreneurs qui viennent nous voir, on a bien souvent des personnes qui ont envie d'entreprendre, qui ne sont pas dans l'obligation d'entreprendre, mais qui ont envie d'entreprendre, des jeunes diplômés ou des cadres qui, après une première forte expérience industrielle, ont bien envie de passer le cap. On a également une expérience où on va chercher les talents là où ils se trouvent, par rapport à des populations en difficulté. Donc ça, c'est un programme qu'Étincelle a mis en œuvre récemment vis-à-vis de jeunes diplômés qui ont du mal à entrer sur le marché du travail, également de bénéficiaires de RSA, où là, Étincelle a une action vraiment proactive pour les faire rentrer dans ces projets très, très riches de création d'entreprise. Sur votre expérience d'accueil de porteurs de projets d'entrepreneurs, est-ce que également vous avez ces tendances de profil de porteurs de projets et également faites-vous l'effort d'aller chercher, d'aller susciter la vocation d'entrepreneuriat vis-à-vis de certaines personnes ?
Ouais, c'est excellente votre question. L'accompagnement, le co-accompagnement qu'on fait avec la CCI et surtout la BGE nous permet, on va dire, d'accueillir plus de monde et d'orienter certains bénéficiaires du RSA et, on va dire, et des bénéficiaires de minimum sociaux et de les aider dans la construction de leur entreprise. Je citais par exemple une baraque à frites récemment, c'est comme ça qu'on s'est rencontré avec Jackie. Cette baraque à frites-là, au départ, elle n'était pas innovante. On a renforcé son modèle économique par quelques idées parce que finalement, c'est comme ça qu'on a aidé cette entreprise. Alors après, au niveau des profils, on rêve tous, honnêtement, je crois, dans nos incubateurs, on rêve tous des profils qui n'ont pas besoin de nous. Et finalement, je dirais que mon métier, en toute sincérité, c'est d'accompagner des gens qui n'ont pas besoin de moi. Parce que ces gens-là, je sais qu'ils vont réussir. Et après, et ça, on va dire que la moitié des gens que j'accompagne n'ont pas besoin de moi. Je n'ai pas envie de le dire, parce que sinon, de toute façon, 61 entreprises et projets, quand vous êtes 3 chargés d'affaires, on n'irait pas très loin. Julien Salanave, au Redesign, Marie Degnaud, Anne Rossignol-Castera d'Oléos, milleetunepharmacie.com, Bédicassa, et je pourrais vous en citer comme ça, beaucoup d'entreprises. On est important pour eux si on est capable de les challenger et non pas de leur tenir la main. Alors, Ça, c'est le profil, c'est-à-dire la diversité des profils. Il y a, donc en priorité, on va chercher des profils qui n'ont pas forcément besoin de nous. Le profil, je pense, médian chez nous, il doit avoir 35 ans, expérimenté, un peu d'argent, un peu de réseau. Et là, d'un coup, on se retrouve avec quelqu'un qui va aller très, très vite. Et puis ensuite, il y a d'autres profils, notamment la génération Y, où là, on a quand même beaucoup, beaucoup de soucis. Beaucoup de soucis parce qu'il y a l'exception qui confirme la règle. L'exception qui confirme la règle, c'est Magali Boisseau qui a créé Bédicassa, hein, le site internet de location de chambres chez l'habitant, ou c'est Cédric et Sabine qui ont lancé le premier portail des pharmacies en France, milleetunepharmacie.com. C'est l'exception qui confirme la règle parce qu'à un moment, ces gens-là, on a été les chercher. On a signé une convention avec la Fondation Entreprendre de l'Université Montpellier 1 et on intervient dans des cours, on a même monté des cours et monté des concours de start-up dans ces universités pour aller recruter les meilleurs talents. Alors, je pense qu'on a une vraie vocation sur nos territoires, en plus, à détecter des potentiels et des talents, mais, c'est-à-dire d'entrepreneurs, mais où on peut aider aussi beaucoup de gens par nos formations à devenir de bons intrapreneurs. Un entrepreneur, c'est extrêmement rare. Un entrepreneur, c'est beaucoup plus fréquent, notamment dans la génération Y. Au moment où vous m'appeliez tout à l'heure, j'étais avec une dame qui crée son entreprise qui a une quarantaine d'années et avec Dimitri qui a 23 ans, qui sort de Subdeco. Et le défi et le challenge qu'on a aujourd'hui, bah, c'est de croiser leur ligne de vie et de voir comment ils pourraient avoir l'étincelle de créer ensemble. Parce qu'une génération Y, ils sont, on va dire, extrêmement attachants, mais pas forcément attachés. C'est extrêmement rare d'avoir des gens qui vont continuer l'aventure après un premier échec ou une première difficulté. Et puis les gens qui ont 40 ans, ben, il y a souvent la peur au ventre que n'a pas la génération Y parce qu'ils n'ont pas grand chose à perdre. Et la génération de 40 ans, ils ont une visibilité financière par les assédis qui est assez limitée et puis un risque d'échec plus important. Donc il y a aujourd'hui un renouvellement profond dans les profils qui viennent à nous. Aujourd'hui, notre défi, c'est de mieux pouvoir les marier. C'est comme ça qu'on a créé la start-up et dans le pré, le concours, qui est ben, on a beaucoup de talents de différents horizons, de différents niveaux. Ben, aujourd'hui, créons un événement pour les faire travailler ensemble à travers des équipes. Donc, en gros, c'est le Startup Weekend des grandes villes, mais à la campagne, qui vont être coachés par des entrepreneurs locaux, par des personnalités, etc., en vue de commencer à se comprendre, d'imaginer pouvoir créer des choses ensemble. Écoutez, le concours La Startup est dans le pré qui a eu lieu, la première expérience était l'année dernière, au mois de novembre. Les 5 équipes qui ont été, on va dire, nominées, sur les 5 équipes, il y en a 3 qui ont véritablement créé et qui se sont associées. Donc, on a l'endroit, nos campagnes sont des endroits qui sont idéales parce qu'elles sont solidaires, parce qu'elles sont réactives, parce qu'on est agile, parce qu'on peut finalement, nous, proposer un autre modèle de développement à ces personnes et surtout de vraies capacités, de vraies possibilités de rencontre.
Merci beaucoup, Pierre Alzingre. On va vous libérer et puis vous souhaiter une bonne journée.
Bonne journée également à vous et puis je vous souhaite vraiment d'excellents travaux et merci encore pour cette fenêtre et de m'avoir invité.
Merci beaucoup à vous de votre intervention, elle était très riche. Je vais passer à bientôt. Je vais maintenant passer la parole à Jean-Claude Payerne, qui va nous présenter en quelques mots la pépinière Étincelle en Poitou-Charentes. Et puis, je vais proposer, mais discrètement, que nous rejoignent M. Ramani, M. Lériot et M. Millot pour que nous puissions faire la suite de la table ronde.
Oui, je vais être très rapide. Je ne sais pas s'il y aura suffisamment de chaises pour tout le monde. J'ai entendu trois noms. Très rapidement, donc, Étincelle, nous ne sommes pas une pépinière, nous sommes un incubateur qui a été créé en 2000 à l'initiative de l'État, du ministère en charge de la recherche. C'était Claude Allègre qui, à l'époque, donné un cadre à la création d'entreprises issues des laboratoires publics de recherche. Donc, la création sur le territoire Poitou-Charentes a été la création de l'association incubateur régional Poitou-Charentes Étincelle. Et notre mission première est bien l'accompagnement d'entrepreneurs, de créateurs d'entreprises en lien avec un laboratoire public de recherche. Donc en fait, c'est bien la création de start-up techno on est très très branché technologie. Depuis 13 ans qu'Étincelle existe, Étincelle a accompagné une bonne centaine de projets de création d'entreprises de technologies innovantes, plus d'une soixantaine de créations d'entreprises. Là, en ce moment, on a à peu près une trentaine de projets en incubation. Ce sont des projets qui sont, alors puisqu'on parle de créativité de territoire, les territoires en question, on est quand même très centré autour des pôles universitaires et scientifiques de la région Poitou-Charentes, c'est-à-dire en fait les quatre agglomérations du territoire, Poitiers autour de l'Université de Poitiers, La Rochelle autour de l'Université de La Rochelle, Angoulême autour du pôle image, tout ce qui se passe autour des industries créatives. Il y a également six écoles d'enseignement supérieur autour du pôle image et autour de Niort aussi, autour de l'IUT, l'Université de Poitiers. Ce que je voulais évoquer aujourd'hui avec vous, c'était une initiative qu'on a lancée il y a 2 ans maintenant, en lien avec le vaste champ de l'économie sociale et solidaire, qui est pour nous un vivier important d'emploi, puisque le maître mot d'un incubateur ou d'une pépinière, c'est bien la création d'emplois, donc des emplois spécifiques, puisque ce sont des emplois à haute valeur ajoutée. Si je refais un retour sur notre incubateur académique, on lance un observatoire chaque année. Donc 99% de nos entreprises ont des brevets, ont de la technologie, donc c'est de l'innovation technologique facile à qualifier. Mais 80% des salariés de ces startups sont d'un niveau bac plus 5 ou bac plus 8. Donc mais c'est très important pour nos territoires, ça permet de fixer ces jeunes talents ou vieux talents, parce que c'est pas que des jeunes, de l'emploi hautement qualifié autour de nos universités, autour de nos écoles. Donc ce que je voulais évoquer, c'était une initiative double, innovation et économie sociale et solidaire, qu'on a lancée il y a 2 ans, avec un financement FSE, Fonds Social Européen, puisqu'on alliait emploi et puis innovation. Le projet est très ambitieux, puisqu'on se permet de penser qu'on a la capacité de monter, de construire de toutes pièces des projets dans le champ de l'économie sociale et solidaire, avec bien sûr les partenaires de ces domaines-là, qui sont la CRES et l'URSCOP, pour ne pas les citer. Le projet est très ambitieux, puisqu'on a pour objet de monter de toutes pièces 4 projets à fort potentiel, et d'emploi et d'impact en économie sociale et solidaire, et de pouvoir proposer donc des postes, des emplois, à des populations qui sont en difficulté d'intégration, comme les jeunes diplômés de l'Université de Poitiers, certains jeunes, et également les bénéficiaires du RSA. Donc c'est une initiative qu'on déploie sur 2 territoires, 2 départements, la Vienne et les Deux-Sèvres, et sur lesquels on a déjà des premiers résultats, puisqu'on est en train de créer 2 premières structures. Donc la première, c'est une association qui devrait couvrir ou se positionner sur de l'accueil familial de jour de personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc l'objet est bien de développer des postes, des missions d'accueillant ou d'accueillante familiale de jour pour pouvoir accueillir ces personnes âgées. Donc le lien innovation, on est sur une approche non thérapeutique validée ou supportée par le CHU de Poitiers, l'Université de Poitiers. Et sur la partie emploi, on travaille ou on discute avec les services sociaux, des conseils généraux, des agglos, des villes, pour pouvoir proposer ce type de formation et ce type de poste à des bénéficiaires du RSA. Et bien sûr, il y a toute la partie formation qui est prise en compte par notre programme. Ensuite, on a un deuxième projet, c'est une association qui devrait se convertir en coopérative ou en SIC. C'est un bureau d'études piloté par des jeunes ingénieurs, qui permet de trouver des solutions par rapport à la précarité énergétique de territoires isolés ou de personnes en difficulté. Et puis on a 2 autres projets en gestation qui devraient démarrer en 2014. Voilà, donc ça c'est une initiative qu'on trouve intéressante. En plus, porteurs de projets innovants, nous-mêmes devions être innovants. Donc pour sensibiliser ces populations, ne serait-ce qu'à l'économie sociale et solidaire, et puis leur redonner courage pour le retour à l'emploi. On a mis en place avec des associations, des ateliers artistiques où, pour présenter et ses futurs projets et l'économie sociale et solidaire par le biais d'acteurs, d'improvisation théâtrale, on arrive à faire passer des messages forts et redonner finalement de l'espoir et du courage à certaines personnes.
Merci Jean-Claude Payern. Est-ce que la régie...
Il faut que la régie me donne un tout petit peu de son. Merci Philippe. On va peut-être maintenant passer la parole à Monsieur Farid Ramani. Nous avions en fait jusqu'à maintenant eu deux présentations, l'une depuis une pépinière, enfin deux pépinières qui nous ont été présentées. Et puis on va voir qu'on peut aussi développer de la créativité dans un territoire à partir d'un centre socio-culturel. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu, certains connaissent que c'est un centre socio-culturel, mais peut-être pas tout le monde. Donc nous présenter un peu votre centre socio-culturel, le territoire du Neuilhof où vous vous êtes implanté et développé, et puis ensuite nous présenter votre action et votre dynamique de créativité.
Bonjour, je m'appelle Farid Ramani. D'abord, je voulais juste parler plus près du micro. Ah, pardon, je pensais qu'il était... Donc, je m'appelle Farid Ramani, j'habite à Strasbourg et je travaille au centre socio-culturel du Neuilhof en tant que chargé de projet. Je suis là d'abord pour remplacer Koutir Keshab, qui est le directeur du centre socio-culturel, qui a malheureusement pas pu se déplacer. Donc je ne sais pas si je serai à la hauteur, mais je vais essayer de faire en sorte de rendre compte de ce qu'il voulait vous présenter. Donc un centre socio-culturel, c'est d'abord un outil au service du développement social. En tout cas, c'est comme ça que ça a été pensé dès ses débuts. C'est un endroit où les habitants doivent pouvoir entrer en relation avec des professionnels, et ces professionnels-là sont censés pouvoir les accompagner pendant le temps d'un projet ou autre chose à la construction du lien social, à la construction d'un quartier et d'une ville. Voilà un peu peut-être pour la définition. Notre centre socioculturel donc se situe dans le quartier le plus emblématique de la ville de Strasbourg, qui est le quartier du Neuilhof, qui avait connu pendant de nombreuses années, en tout cas qui était extrêmement médiatisé. Voilà, petit à petit, de gros travaux, entre autres. Donc, petit à petit, de gros travaux de rénovation urbaine et de réhabilitation se sont succédés. Et on a essayé de, en tout cas, résorber l'enclavement qui existait entre le territoire du Neuilhof, qui fait à peu près 10 km², et le reste de la ville, qui la ville en entier constitue 78 km². Donc, et le reste de la ville. Le tramway a été mis en place, et de très, très nombreuses, tours, bars et blocs ont été détruits ou détruites, et ont laissé place à un peu plus de mixité résidentielle. Voilà un peu le... Après, s'il y a eu une très grosse action qui a été faite sur le bâti, beaucoup d'actions... on essaie de mettre en place beaucoup d'actions autour de l'individu. Parce que, on en parle depuis tout à l'heure, le cœur de tout changement, c'est d'abord l'individu et la réunion d'individus créatifs. La réunion d'individus créatifs est peut-être audacieux, un peu fou. Et c'est cette réunion plus des compétences et de l'expertise qui vont permettre de donner naissance à des projets qui pourront peut-être... modifier un petit peu la vie des gens, quel que soit l'endroit où cela se passe. Donc, en 2010, qu'est-ce qui s'est passé? Le centre socioculturel du Neuilhof voit arriver dans son conseil d'administration des personnes issues du monde de l'entreprise. Donc, on a un nouveau président qui arrive, qui est au MEDEF, qui est au CJD Alsace, qui est extrêmement impliqué au niveau local, par rapport à la question de l'insertion professionnelle. Il siège au conseil d'administration de la CCI, il siège au conseil d'administration de Pôle emploi, etc. etc. Voilà. Son arrivée apporte du renouveau au sein du conseil d'administration, qui était largement constitué de personnes issues du quartier populaire de la ville, donc du Neuf, des habitants, des mamans, des papas, des retraités, etc. etc. Il n'y avait peut-être pas cette énergie entrepreneuriale au sein de ce conseil d'administration jusqu'alors. Le conseil d'administration, accompagné par le président, enfin, le président va faire venir d'autres personnes qui sont également issues du milieu de l'entreprise. Ces personnes, plus un directeur, donc Koutir Keshab, qui aurait dû être là, qui est une personne assez... très dans l'innovation, l'ouverture, le changement, l'audace. Donc, toutes ces choses-là ont donné naissance à des projets qui sont partis de ce centre socioculturel. Donc, pour en citer quelques-uns, on a eu en mai 2011 un forum qui s'appelle JobZone. Donc, un grand nombre d'associations et d'institutions publiques se sont réunies, en plus d'entreprises se sont réunies, et ont essayé de mettre en place toute une journée autour d'un forum de l'emploi au sein de la cité, là où le marché hebdomadaire a lieu habituellement. Donc toute une manifestation autour des entreprises a été développée à cet endroit, et les entreprises qui étaient présentes à ce forum étaient des entreprises, on appelle donc les entreprises du Port du Rhin. Il y a le quartier du Neuf, il y a le quartier du Port du Rhin, et entre les deux, il y a une immense zone, une zone d'entreprise. Et cette zone, qui est constituée de plus de 300 entreprises, n'allait pas forcément chercher ses futurs salariés dans ces zones, pour plein de raisons. D'abord, tout ce qu'on a pu construire au niveau médiatique, donc sur la peur de ces populations indésirées, indésirables, etc., etc., sur parfois le manque de compétences, parce que, prenons l'exemple du quartier du Neuf, on a un taux d'échec scolaire qui est égal à 60%. Donc ça veut dire qu'il y a 60% à peu près de personnes qui vont entrer sur le marché de l'emploi, qui vont entrer sur le marché de l'emploi sans diplôme, bac, etc., etc. Je ne sais pas si j'arriverai à dire tout ce que je dois dire. Oui, donc j'en étais là. Le lien qui existe, donc il y en avait très peu, à part les bruissances sonores ou les odeurs qui pouvaient émaner des entreprises et qui créaient une nuisance au niveau de la population. Donc l'idée a été de réfléchir à déjà sensibiliser les entreprises pour qu'elles acceptent de travailler avec cette population. Donc il y a tout un travail qui a été fait d'entrer en relation pour pouvoir petit à petit aller chercher les futurs salariés dans ces zones d'habitat social délabrées. Donc le projet, le forum JobZone a permis une soixantaine de recrutements, ce qui est pas mal. Bon, c'est pas encore, ça n'a pas sauvé le quartier, mais c'est déjà pas mal. Et cette première initiative, qui était ponctuelle, a poussé à aller plus loin et a donné naissance à un autre projet qui s'est appelé REVE, R-E-V-E, donc, et qui est le rapprochement entre les voisins et les entreprises. Et cette idée de rapprochement, c'était donc un travail qui a été fait avec le Pôle emploi, avec la mission locale. Le Pôle emploi est porteur du projet, enfin, est le pilote du projet. Donc l'idée, c'était avec les associations du quartier, d'entrer en relation avec des publics complètement éloignés de l'emploi, de les sensibiliser sur les questions de l'emploi, autour de la question de l'autorité au travail, etc., etc., et de leur faire visiter les entreprises qui seraient susceptibles de les prendre et essayer ensuite de construire une relation entre eux pour pouvoir petit à petit permettre à ces personnes de travailler dans ces entreprises-là et d'avoir des postes qui seront par la suite des CDI, etc. etc. Et toujours dans cette dynamique, ça a permis également de signer une convention avec l'État, la région, la préfecture, etc. Enfin, tous les grands acteurs étaient là et ils ont signé une convention pour élargir donc les contrats d'avenir aux entreprises, donc notamment aux entreprises du port du Rhin qui allaient pouvoir avoir une aide de 35% aux horaires bruts à partir du moment où elles feraient les démarches pour pouvoir faire entrer ces personnes dans leurs entreprises. Voilà, en gros.
Une dernière initiative peut-être à nous présenter en deux minutes
vous... Deux minutes, j'y arriverai pas, mais il y a d'autres initiatives, dont une, et c'est l'initiative pour laquelle moi je travaille au Centre socioculturel du Neuf, c'est le projet DACIP, D-A-C-I-P, qui signifie dispositif d'accompagnement collectif et individuel de proximité, pas de projet. Il y avait une petite erreur sur le papier. Et donc, ce projet est né en 2011 de mon initiative, mais entouré par des travailleurs sociaux sur le territoire, des éducateurs spécialisés, animateurs socioculturels. Voilà, moi, je faisais un constat, parce que d'abord, avant d'être un travailleur sociaux sur le territoire, je suis un sociologue spécialisé sur la question des grands ensembles, qui a travaillé à la fois sur le quartier de l'Elzo et le quartier du Neuf à Strasbourg. Et en tant qu'expert sur cette question et travailleur social sur le territoire, j'estimais, comme Durkheim le disait dans la division du travail social, que je ne pourrais peut-être pas passer une seule heure d'expertise ou de réflexion sociologique sans me dire que ça allait mener à rien. Donc je pense qu'il est important que l'expert essaye de diagnostiquer pour que le politique bouge. Mais je ne voulais pas attendre que le politique bouge, donc j'ai estimé qu'il était de mon ressort de participer au changement également. Donc j'ai essayé de réfléchir à un projet de proximité. Et l'idée, c'est de travailler avec des perdus de vue. Donc les personnes qu'on appelle perdus de vue au niveau institutionnel, ils ont entre 16 et 25 ans, ils ont quitté le système scolaire, ils n'ont pas grand-chose comme compétence officielle. Mais le problème, c'est qu'ils ont un manque, une estime de soi extrêmement bas, etc., etc. Donc nous, on essaye de les coacher sur 6 mois. Je ne pourrais pas tout vous expliquer. Donc on les coache sur 6 mois et on essaye de construire avec eux un projet, en tout cas de la redynamisation au niveau personnel, et d'essayer de construire ou co-construire un projet, un scénario de progrès avec la personne. Et donc c'est 6 mois de coaching au niveau collectif et individuel, mais ça se poursuit ensuite au niveau individuel avec les travailleurs de proximité, donc travailleurs sociaux, éducateurs, etc. Et l'accompagnement se poursuit pour qu'au bout de entre 12 et 24 mois, on ait réalisé le pari fou de faire de cette personne une personne qui s'intègre dans la société avec un job, etc., ou une formation. Voilà.
Une ou deux questions peut-être dans la salle à monsieur Ramani sur son activité, peut-être sur son projet, s'il y a des questions.
Juste une précision. Il faut dire aussi que le directeur fait partie maintenant du CJD d'Alsace.
Exactement.
Je l'ai rencontré à l'occasion d'une rencontre interrégionale des CJD, et c'est vrai que c'était assez étonnant de voir un directeur de centre socioculturel dans le réseau CJD. Bon, s'il y a une ou deux questions.
Sinon, pas. Vous aurez l'occasion de revenir si vous êtes un petit peu timide maintenant. Donc on va proposer la parole à Laurent Lériot pour nous donner une présentation des actions de créativité sur son territoire. Fier de mon quartier, sur les Salines à La Rochelle, j'ai tout juste, mais dites-nous en plus.
C'est pas dans le désordre, mais c'est un peu ça. En fait, moi je suis Laurent Lériot, je suis coordinateur d'un collectif d'associations. Mon métier avant tout, c'est animateur socio-cu. L'évolution a fait que je devienne un coordinateur et non un directeur, ça a son importance. Donc pour faire appel jusqu'au bout, en fait, moi Je viens juste présenter une initiative qui s'appelle la Fondation Fière de mon quartier. Fondation créée à l'initiative du collectif des associations et créée avec des chefs d'entreprise du secteur de Villeneuve-les-Salines. Donc Villeneuve-les-Salines, c'est un quartier de La Rochelle qui fait 7000 habitants, qui concentre un certain nombre de difficultés sociales. Néanmoins, la présence du collectif d'associations depuis 1977 permet à ce qu'il y ait une dynamique associative assez forte. Au dernier inventaire de septembre, nous étions à 92 associations qui œuvraient sur le quartier et 45 qui ont, leur siège social sur le territoire. Donc, en 2011, nous avons fêté le 40e anniversaire du quartier. Donc en 1971, premier habitant qui arrive sur ce territoire. Territoire qui a été construit par le fait que, bien, de la même manière que sur le quartier à Strasbourg, on a imposé une zone industrielle et on a construit ensuite des bâtiments pour pouvoir loger les ouvriers qu'on faisait venir sur ces espaces-là. Donc de la même manière, nous avons une zone industrielle qui compte plus de 200 entreprises qui, de l'autre côté de la rocade, j'ai envie de dire. Et de la même manière que mon collègue, on se rend compte que très peu de gens, très clairement, les entreprises ne viennent pas recruter juste de l'autre côté de la rocade. Donc ça, c'était le premier constat. Le deuxième constat, c'était que nous, en tant qu'association, de moins en moins d'argent de pouvoir public, donc difficulté à soutenir, les actions associatives. Et moi, je suis plutôt issu du monde sportif au départ. Donc je me suis dit, pourquoi les sportifs arrivent à aller chercher de l'argent dans les entreprises, pourquoi le social n'irait pas? Et donc, on est allé chercher, entre guillemets, du sponsoring. Donc, sponsoriser du social, c'est pas évident, parce qu'embaucher avec, l'uniforme d'Intermarché ou ailleurs, c'est pas forcément dans les coutumes. Donc, on est allé, vendre, très clairement, des initiatives que l'on pouvait créer avec les membres associatifs. Puis bon, on n'est quand même pas des commerciaux au départ, donc on y passe beaucoup de temps. Et donc, de la même manière que le collectif, qui était une réunion d'associations, on s'est dit, mais pourquoi on ne réunirait pas les entreprises, de manière à ce que, de ce que vous disiez en début, créer du réseau, Et donc, on a rencontré deux ou trois entrepreneurs qui nous soutenaient dans nos actions. On leur a expliqué que c'était assez compliqué d'aller chercher de l'argent, qui plus est autour du mécénat ou choses comme ça. Donc, ils ont eu l'idée géniale de créer une fondation, dont l'objet est de... elle s'appelle Fière de mon quartier, c'est pas pour rien, c'est l'idée de redorer le blason du territoire, tant pour que les habitants y vivent mieux et qu'ils aient, une image un peu plus positive de leur lieu d'habitat, que les gens de l'extérieur pensent un peu différemment de ce que de Villeneuve-les-Salines. C'est-à-dire que vivre à La Rochelle, quand on voit les deux tours, c'est super beau, mais quand on voit l'envers du décor, c'est autre chose. Donc vous comprendrez bien que les gens du centre-ville, vis-à-vis de ce qui se passe dans les quartiers, l'image peut être vite ternie. Qui plus est, le journal ne relate que les effets négatifs. Donc, on est plutôt, de la même manière qu'à Strasbourg, dès qu'il y a une voiture qui flambe, ça y est, c'est la révolution. Donc, combattre ça, c'est très compliqué. Et les entreprises, elles ont aussi un intérêt, c'est qu'elles vivent là. Donc, elles sont associées aussi à l'image du territoire. Et donc l'idée, c'était comment trouver des fonctionnements qui font qu'à un moment donné, on est tous dans le même bateau, et comment on fait pour redorer l'image d'un quartier dit difficile. Voilà. Alors je suis super content de vous rencontrer, parce que dans ce que vous dites, on se rapproche vachement. Parce qu'au départ, effectivement, alors très clairement, techniquement, c'est un engagement sur 5 ans de créer une fondation, c'est 200 000 euros. Sur 5 ans, donc 40 000 euros par an. Donc ça fait 40 000 euros, ça peut paraître peu, mais c'est beaucoup pour les petites associations qui,
comme on disait tout à l'heure dans les créateurs d'entreprises, effectivement, il faut qu'il y ait la banque qui permet de donner le petit coup de pouce et du réseau. Et donc, on est complètement là-dedans, mais on ne crée pas de la richesse, mais en tous les cas, on est sur, je dirais, permettre à des habitants de pouvoir mener à bien des projets, des actions de quartier qui créent du lien social. Alors effectivement, on n'est pas dans la richesse pécuniaire, mais on est vraiment dans la richesse humaine. Voilà, ça permet ça, en tous les cas. Et puis, effet inattendu de la Fondation, c'est que les entrepreneurs se sont pris au jeu. Et donc, ils se sont dit, bon, c'est bien l'argent, mais est-ce qu'on ne pourrait pas amener autre chose ? Voilà. Et donc là, on commence à travailler donc, avec la régie de quartier, avec le centre social, sur l'idée de... on a quand même un certain nombre de personnes qui sont au chômage sur le quartier. On a 25% de notre population de 16-25 ans qui est au chômage. Comment ça se fait que ces jeunes ne trouvent pas de boulot alors qu'à côté, et le discours des entrepreneurs, c'est aussi ça, c'est de dire on ne trouve pas de collaborateurs et notamment on ne trouve pas de gens peu qualifiés, on n'arrive pas à les embaucher. Il y a quand même un sérieux problème. Voilà. Et donc on est en train de travailler sur un projet d'intermédiation d'entreprise. L'idée, c'est créer un parcours, en fait. Enfin, ça, c'est les entreprises qui l'ont proposé. C'est de proposer, en fait, à des demandeurs d'emploi un parcours dans les entreprises sous forme de stage, entre guillemets, mais tutoré. C'est-à-dire que les entreprises doivent former un tuteur en interne. Et le tuteur, c'est pas le patron. C'est celui qui va bosser avec la personne, ce qui fait que l'ouvrier qui se trouve dans une situation de tutorat, ça le valorise également, mais ça le sensibilise aussi au fait que, juste à côté, il y a des gens qui ont des difficultés et qui veulent s'en sortir. Donc ça change aussi l'image du chômeur feignant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, et puis du jeune beurre qui veut pas bosser, à un moment donné, oui, il y a des jeunes qui cherchent à s'en sortir, et qui plus est, tu peux aussi apporter ton grain à l'édifice. Voilà. Donc on est en train de construire ça. Je ne peux pas vous donner de mesure parce que voilà, on est en train de le travailler, mais voilà, il y a cette volonté là.
Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions, qui ont des compléments ou qui ont des remarques sur cette expérience et qui voudraient poser ? Bon, vous êtes toujours très timide. Je propose qu'on passe la parole à l'intervenant suivant, qui est Monsieur Millot. Vous êtes l'association Poitou-Charentes des enseignants de langues anciennes.
Oui.
Et même question un peu qu'à vos précédents camarades de table. Où sont les actions créativité ? Enfin, quand je dis où sont, qu'est-ce que vous faites en matière de créativité et qu'est-ce que vous avez peut-être tiré comme leçon ou qu'est-ce que vous êtes en train d'essayer d'élaborer comme méthodologie autour de vos actions créativité ?
Si je devais illustrer par un texte de la littérature latine le maître mot de ces journées, celui de créativité, je citerai l'extrait suivant de la première Géorgique de Virgile. Sous la forme d'un mythe, le poète, remontant à l'âge d'or et à Jupiter qui y mit fin, raconte l'origine de l'agriculture et du travail. Oui, le Père a voulu que pour nous la culture fût un travail et le labour une science. Forgeant dans les soucis l'intelligence humaine et refusant qu'on sommeillât dans son royaume. Nul avant Jupiter ne cultivait de champs. Bornés, délimités, paraissaient même impiétés. Chacun prenait dans le trésor de tous. La terre, que nul ne harcelait, nous offrait tous ses fruits. L'or, au cruel serpent, il donna le venin. Il fit les loups pillards et la mer infidèle. De l'arbre, il fit tomber le miel, cacha le feu, tarit les fontaines de vin, pour que l'expérience, par la réflexion, donnât corps aux techniques. Chercha dans le sillon l'herbe tendre du blé et fit jaillir le feu des veines du silex. Alors, des troncs creusés parurent sur les eaux. Le marin dut se mettre à compter les étoiles, Pléiade, Iade, grande ours étincelante. On inventa la glu, les panneaux pour la chasse et les meutes de chiens pour cerner les vallées. Telle frappe l'eau du fleuve en lançant l'épervier au large. Un autre, en haute mer, remorque ses filets. Alors le fer, alors les dents de la grinçante scie. Nos aïeux jusqu'alors avaient fendu le bois. Alors tous les métiers, la victoire est restée au travail, à la peine, à l'âpre pauvreté. La victoire est restée au travail, à la peine. Telle est la traduction ici donnée des mots célèbres du poète qui figurent à une lettre près parmi les locutions latines rassemblées dans les pages roses du dictionnaire Larousse. Labor omnia vicit improbus. Un travail acharné vint à bout de tout. Que cette formule, ainsi sortie de son contexte, n'éclipse pas les vers qui précèdent et l'histoire qu'il raconte. L'intelligence humaine s'engourdissait dans les délices de l'âge d'or. Tel un malin génie, Jupiter a introduit dans la création des désordres. C'était pour que l'homme se réveillât. De fait, l'homme a mis en œuvre ses facultés d'observation, de réflexion et d'invention. Alors sont apparues l'agriculture, la navigation, la chasse et la pêche, l'industrie. Le travail virgilien n'est pas le travail de brute auquel nous fait un peu penser la maxime très moralisatrice des pages roses du Larousse, avec son verbe au présent, un travail acharné vient à bout de tout. Replacé dans son contexte, c'est la victoire de l'intelligence, relevant les défis, stimulée par les obstacles et, j'oserais même ajouter, aidée en cela par les dieux. Aussitôt après, Virgile nous montre en effet Cérès apprenant aux mortels à retourner la terre avec le fer. Que l'on me pardonne ce détour, mais un poète, Virgile, j'aurais pu aussi citer Lucrèce, n'est pas étranger à notre propos, surtout s'il l'illustre de belle façon. D'autre part, cette histoire peut s'appliquer avec toutes les précautions qui s'imposent aux langues anciennes, à leurs conditions passées, présentes et peut-être à venir. L'âge d'or, si tant est qu'il y en ait eu un pour l'enseignement des langues anciennes, est bel et bien derrière nous. Un Jupiter, que je me garderai bien d'identifier, y a mis fin. Quels obstacles a-t-il placés sur notre route ? Voilà qui est plus intéressant à analyser. Pour présenter les raisons du déclin de l'enseignement des langues anciennes, j'utiliserai le rapport de l'Inspection générale de l'Éducation nationale, établi en 2011 par Mme Klein et M. Solaire, l'enseignement des langues et cultures de l'Antiquité dans le second degré. On y trouvera rappelés les arguments mis en avant par les détracteurs de cet enseignement. Élitiste et conservateur, il serait un instrument de la reproduction sociale au seul service des héritiers. On reconnaît là des thèmes développés par Pierre Bourdieu. Les résultats très médiocres prouveraient son inutilité. Quel élève, même formé pendant des années, peut lire aperto libro, au terme de sa scolarité, un chant de l'Énéide ou de l'Odyssée. L'enrichissement culturel que serait censé apporter l'étude de l'Antiquité peut s'obtenir par la seule lecture des traductions. Enfin, la fameuse rigueur intellectuelle dont on crédite souvent les techniciens de la version et plus encore du thème n'est pas leur monopole. D'autres disciplines y préparent tout autant, sinon mieux. Ces griefs répétés et largement répandus ont assurément ébranlé la citadelle. Elle le fut plus encore par la montée en puissance et la concurrence de sciences et de techniques indispensables à l'homme du XXe et du XXIe siècle. Sciences sociales, économie, gestion, informatique, langue vivante, tous ces nouveaux venus à qui il a bien fallu faire une place dans l'éducation nationale ont évincé certains privilégiés qui se croyaient bien installés. Devenu enseignement facultatif ou option, y compris au lycée pour la série littéraire, les langues anciennes sont désormais en concurrence avec d'autres enseignements facultatifs ou options, dont beaucoup passent pour plus séduisants et plus faciles ou sont plus à la mode. Dans la surenchère à laquelle se livrent les enseignants des différentes options, ceux de langues anciennes sont bien obligés d'avouer à un moment ou à un autre, à moins de tromper leurs interlocuteurs, que l'élève devra apprendre et travailler. Aussitôt surgissent des épouvantails, déclinaisons, conjugaisons, règles de grammaire, listes de vocabulaire. De tels apprentissages paraissent incompatibles avec ce que doit être, dans l'esprit de beaucoup, une option, à savoir une activité ludique, ouverte sur le monde contemporain, capable de rapporter gros aux examens. Sur ce point, il est vrai, les langues anciennes ont un avantage. Dotées d'un coefficient 3 au baccalauréat, elles sont un diamant de plus sur la couronne de candidats brillants, font accéder beaucoup à une mention très bien ou bien, et procurent à des élèves un peu justes les points qui leur épargneront l'épreuve de rattrapage. Mais une telle promesse est souvent difficile à entendre. Elle suppose un engagement de longue durée. Or, il y a là une nouvelle contradiction avec la conception que l'on a d'un enseignement facultatif ou d'une option. Ceux-ci, pense-t-on, doivent laisser toute latitude à l'élève qui peut aller et venir, renoncer à l'option choisie selon son bon plaisir, l'évolution de ses goûts ou centres d'intérêt, la personnalité de celui ou celle qui l'enseigne. Tels sont quelques-uns des obstacles auxquels les langues anciennes se sont heurtées. Un état d'esprit, surtout perceptible après 1968, hostile aux valeurs attachées à l'enseignement de ces langues, la marginalisation en raison de l'importance prise par d'autres disciplines jugées plus utiles, la relégation au rang d'option, statut peu compatible avec la nature des langues anciennes. Quelles parades ont été trouvées et mises en place pour contrer un déclin et une disparition parfois présentés comme inéluctables? Pas plus que d'autres disciplines, les langues anciennes n'ont pu faire l'économie d'un examen de conscience qui les a conduites à une profonde transformation des objectifs et des méthodes de leur enseignement. Aussi, dans les textes officiels, ne parle-t-on plus, depuis 2007, comme je l'ai fait jusqu'à présent, de langues anciennes, mais de langues et cultures de l'Antiquité. C'est dire que, pour nécessaire que soit l'étude de la langue, celle-ci doit être désormais pensée en vue d'un objectif plus large, la lecture et la compréhension de textes ayant un réel intérêt pour découvrir les civilisations latines et grecques. Et cet objectif est lui-même au service d'un autre. Notre civilisation s'étant formée sur une ère géographique où latins et grecs ont laissé une profonde empreinte, étudier les langues et cultures de l'Antiquité doit favoriser une meilleure connaissance des langues vivantes d'une part, de notre culture politique, historique, morale, littéraire et artistique, d'autre part, je cite le bulletin officiel du 13 septembre 2007. Voilà pourquoi l'enseignement du latin et du grec est indissociable dans notre pays de l'enseignement de la première des langues vivantes pour nous, le français. Il n'y a pas de professeurs de latin et de grec, il y a des professeurs de français, latin et grec, ou de lettres classiques, capables d'aller d'une langue à l'autre, d'œuvres littéraires du passé à leur reprise, ou leurs avatars au long des siècles. Quant aux professeurs de lettres modernes, ils doivent avoir été initiés à l'une ou l'autre des deux langues anciennes et en connaître suffisamment le vocabulaire, les structures grammaticales et l'histoire littéraire pour y faire référence si nécessaire dans leur enseignement de la langue et de la littérature française. À cette ouverture des langues anciennes vers le français, mais aussi vers les autres langues romanes parlées en Europe et dans le monde, sans oublier le grec moderne, ni certaines langues régionales, souvent plus proches de la source latine, s'ajoute une autre ouverture vers les sciences humaines. Le professeur qui enseigne les langues et cultures de l'Antiquité initie nécessairement à la connaissance historique de l'Antiquité, à la compréhension des morales et philosophies de l'Antiquité, à l'intelligence des œuvres d'art inspirées par la mythologie ou une religion qui, née à Jérusalem, a grandi dans un monde dominé par Athènes et Rome. Ainsi, pour qu'elles demeurent vivantes et attractives, les langues anciennes ont été envisagées comme des outils permettant la compréhension et l'acquisition d'autres savoirs. Cet aggiornamento a fait des langues et cultures de l'Antiquité, selon l'expression des auteurs du rapport cité plus haut, la plus transversale des disciplines. En effet, si l'on se réfère au socle commun de connaissances et de compétences, décret du 11 juillet 2006, il apparaît que les langues et cultures de l'Antiquité ont à voir avec les 7 priorités de l'enseignement au collège. Je les rappelle brièvement. 1. Meilleure maîtrise du français. 2. Pratique d'une ou plusieurs langues vivantes étrangères. 3. Développement de l'esprit scientifique, qui suppose capacité d'observation, élaboration d'hypothèses, vérification, mise en perspective, autant de qualités que développe aussi l'exercice de compréhension et de traduction des textes anciens. 4. Utilisation des TICE. Les nouvelles technologies ont leur place dans les classes de latin et de grec. 5. Acquisition de repères pour mieux se situer dans la société actuelle et être ouvert au monde. 6. Contribution à la formation d'une culture civique, comprenant notamment le sentiment d'appartenance à l'Europe. À propos des points 5 et 6, je rappellerai seulement que les professeurs de langues et cultures de l'Antiquité ne comptent ni leur peine ni leur temps pour faire aux élèves des voyages en Italie et en Grèce. 7. Développement de l'autonomie et de l'esprit d'initiative. Il s'agit de placer l'élève en situation d'activité et non de pure réception, d'encourager les démarches de recherche et de projet. Là encore, la pédagogie des langues anciennes n'est pas en reste, elle a su s'adapter. À la réalisation de cette charte en 7 points, les langues et cultures de l'Antiquité apportent donc leur contribution. Voici à ce propos quelques chiffres que m'a communiqué M. Imi, inspecteur pédagogique régional de lettres. À la rentrée 2013, on compte dans l'Académie de Poitiers 12 504 collégiens latinistes répartis dans 40 établissements privés et 160 établissements publics. Ceux qui étudient le grec sont au nombre de 342, répartis dans 6 établissements privés et 20 établissements publics. J'évoquais plus haut la difficulté que les élèves ont à rester fidèles à l'enseignement optionnel choisi au collège. Les chiffres fournis par M. Imi en sont l'illustration. Appris par plus de 12 000 élèves au collège, le latin ne l'est plus que par 1453 élèves au lycée. Les pertes sont moindres pour le grec. Pour 342 collégiens, il y a aujourd'hui 298 lycéens. L'érosion constatée au lycée se poursuit dans l'enseignement supérieur. Trop peu nombreux sont les étudiants qui se présenteront au concours de recrutement de futurs professeurs de lettres classiques en particulier. La relève ne pourra plus bientôt être assurée. Trop peu nombreux aussi sont les étudiants à qui l'on offre la possibilité de s'initier aux langues anciennes ou d'en continuer l'étude, alors que ces langues devraient concourir à la formation des enseignants de langues vivantes, de philosophie, d'histoire, à la formation des historiens d'art et des archéologues, et dans une moindre mesure, des étudiants en droit ou en médecine. Or, la marginalisation, sinon l'élimination des langues et cultures de l'Antiquité à l'université, est un mauvais calcul quand on sait que des entreprises à la recherche de cadres ne les recrutent plus seulement dans les filières traditionnelles du commerce et du management, mais sont ouvertes et accueillantes à des étudiants ayant reçu une solide formation en lettres et en sciences humaines. Le tableau que je viens de dresser devant vous présente donc des couleurs contrastées. La rénovation de l'enseignement du latin et du grec, initié par les inspecteurs généraux et les inspecteurs pédagogiques régionaux, pratiqué dans les classes par les enseignants, est l'expression d'une réelle volonté d'adaptation aux réalités contemporaines. Elle a eu des résultats, dont le principal est de mettre un savoir réputé élitiste et difficile à la portée d'un plus grand nombre d'élèves. Le nombre de collégiens s'initiant aux langues et cultures de l'Antiquité le prouve. Mais il me paraît regrettable que lorsque la spécialisation des élèves se fait en section littéraire au lycée, dans les filières littéraires ou de sciences humaines à l'université, les langues et cultures de l'Antiquité demeurent de simples options, alors qu'elles sont consubstantielles à notre patrimoine culturel et qu'elles peuvent conduire à des carrières dans des entreprises au cœur de la vie économique. Je vous remercie de votre attention et je remercie M. Deniel d'avoir fait une place aux langues et cultures de l'Antiquité dans le programme de ces deux journées, montrant ainsi qu'il considère ceux qui les étudient et ceux qui les enseignent comme des acteurs de la créativité dans notre région.
Merci, M. Millot.
J'ajouterai à cela d'ailleurs que lorsque l'on fait des rencontres dans d'autres régions, j'essaie systématiquement d'y associer un représentant de l'Association régionale des langues anciennes, puisqu'il y a un dispositif national à chaque fois. Voilà. Merci de votre présence. Peut-être, je ne sais pas, on a un grand témoin, donc je lui laisser la parole, peut-être pour qu'il donne quelques éléments de conclusion de la matinée.
Non, ce n'était pas pour des éléments de conclusion, j'avais envie de réagir, parce qu'effectivement, ce qu'on appelait avant même les langues anciennes, ce qui est pire, les langues mortes.
Oui, je me suis bien gardé d'employer cette expression.
Que j'ai effectivement pratiqué avec... Et alors, une chose qui me semble tout à fait essentielle, c'est le plaisir. Bon, mais... C'est-à-dire, mais oui, c'est-à-dire que c'est une occasion de trouver une sorte de jouissance dans la prise de distance et dans le retour d'un regard distancier sur ce que l'on vit aujourd'hui. C'est extraordinaire comme la musique, etc., ou comme c'est pour certains les mathématiques,
bien sûr.
Ce que ça apporte. Et je voudrais simplement, je voulais signaler que parmi toutes les disciplines que vous avez citées, il y en a une que vous avez oubliée, c'est la sociologie.
Oui.
Et en l'occurrence, moi j'ai beaucoup fréquenté, admiré et aimé Jean-Pierre Vernant, qui était un des grands sociologues et qui était un formidable helléniste et latiniste.
Ben, je vous remercie de cette précision et de ce complément.
Merci.
Non, mais peut-être, je ne sais pas si vous vouliez apporter votre témoignage, votre regard. Voilà, très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Oui.
Philippe Vuarin de l'Agence pour la création d'entreprises à Paris. Je voulais rebondir sur l'histoire des langues anciennes. Bon, je suis de l'Agence pour la création d'entreprises, donc je suis un peu créatif aussi, hein, naturellement, enfin d'essence. Par rapport à ça, moi j'ai appris le latin, mais j'ai fait moi l'enseignement agricole après. Je suis technicien agricole, j'ai fait l'agriculture. Et j'ai souvent soulevé ces questions. Je voulais donc l'enseignement, en fait, j'ai oublié de dire ça aussi, notamment, et c'est pour moi le premier élément fondamental, c'est-à-dire que la langue ancienne est nécessaire, est totalement nécessaire à l'enseignement de l'agriculture, à lier l'agriculture, notamment dans tout ce qui relève donc des plantes, etc. Et donc, le plus important, je voulais, c'est que, par exemple, les maisons familiales rurales et lycées agricoles, notamment, fassent une option donc latin-grec, hein, pour qu'effectivement, alors mon gamin, par exemple, il a fait le grand et autres, il a fait latin-grec, mais je voudrais que, bien sûr, l'enseignement agricole fasse une option latin-grec, pour qu'effectivement, le gamin qui arrive qui a fait son bac ou son BTS, ou etc., dise, voilà, bon, j'ai fait mon BTS agricole, option zootechnie, etc. Et puis, bien sûr, j'ai mon option grecque à côté. Et puis, je peux donc, ou latin, et je peux donc travailler sur toute l'histoire des plantes, etc. Et donc, en plus, c'est important parce que, quand même, les agriculteurs dans le monde sont quand même quelques milliards. Et que moi, je voudrais parler français et latin à 1 milliard de Chinois, parce que eux, de toute façon, ils seront mieux respectés dans la langue française que dans la langue anglaise. Voilà. Donc, c'est un point d'entrée qui ferait qu'effectivement, les langues anciennes sont un point de développement extraordinaire pour notre langue française et aussi pour la connaissance et surtout pour avoir un peu de recul par rapport au modèle anglo-saxon, parce que aussi la langue française, avec la langue ancienne, peut avoir aussi un recul qui donne d'autres valeurs humaines que le business.
Ben, je vous remercie de le dire.
Et ça vient du témoignage de l'Association pour la création d'entreprises, l'Association nationale, donc c'est encore plus fort, si j'ose dire. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui.
Oui, bonjour. Donc Jean-Baptiste Lecorf, doctorant à Paris 13. J'étais très intéressé par toutes les initiatives qui ont été présentées. Et je voudrais rebondir, en fait, éventuellement, puisque vous êtes autour d'une même table ronde, rassemblant à la fois des acteurs de pépinières d'entreprise et puis des représentants de défense de l'enseignement des langues anciennes. Voir si éventuellement dans vos pratiques ou est-ce que c'est déjà dans vos débats, imaginer des passerelles notamment entre les compétences que vous avez évoquées d'étudiants dans le secteur des langues anciennes et le monde économique, puisque vous avez un petit peu pointé un tas de compétences que vous avez bien identifiées auxquelles possèdent, on va dire, les personnes ayant été formées par ces disciplines-là. Est-ce que justement il n'y a pas dans les débats ou dans une démarche de prospective des passerelles à faire justement entre le monde des langues anciennes, on va dire, et le monde des pépinières d'entreprise? Je vous pose cette question de manière un peu opportuniste puisque vous êtes ensemble autour d'une même table ronde.
Je ne sais pas si vous pouvez répondre.
Oui, je voulais simplement dire qu'il y avait un gros travail d'Alain Etchegoyen, qui est maintenant décédé, et qui avait beaucoup travaillé cette question de transférabilité entre donc l'apprentissage de tout l'enseignement classique et qui pourrait être d'un fort précieux apport pour l'économie.
J'ajouterais d'ailleurs à Auguste Asta qu'il avait écrit un livre aussi qui s'appelait « Les entreprises ont-elles une âme ?». Voilà. Auguste, on a oublié de te demander de te présenter parce qu'on te connaît tous, mais
université populaire en milieu rural. Oui, en Charente, oui.
Merci. Si vous voulez apporter des éléments de réponse, faire cette synthèse.
Alors, concernant la question des passerelles entre l'université et le monde de l'entreprise, je pense que c'est une évidence, mais je dois confesser que chacun, enfin, souvent nous sommes, nous enseignants, un peu enfermés dans notre spécialité. Et pour ma part, je me préoccupe surtout de la formation des futurs enseignants de lettres. Bon, je sais par retour après que certains parfois quittent l'enseignement parce que les conditions peuvent être difficiles et cherchent à faire valoir ailleurs leurs talents et ils y parviennent. Donc il y a sans doute des passerelles et une possibilité de reconversion. Mais j'avoue que pour ma part, je ne me suis pas très préoccupé de ce passage.
Je donne la excuse-moi Jean-Baptiste, je donne la parole à Michel Briand parce que je crois qu'il a des choses à dire sur cette.
Oui, parce que tout à l'heure, je me suis présenté comme un littéraire, bon, donc vice-président délégué à la recherche de l'Université de Poitiers, mais je suis prof de grec. Donc, voilà. J'ai deux éléments, j'en ai même trois. L'Université de Paris-Ouest-Nanterre a créé une nouvelle filière intitulée Humanité, dans laquelle les étudiants de philosophie, d'histoire de l'art, d'humanité classique, etc., travaillent ensemble. Et un de nos collègues, spécialiste de mythologie grecque, est en fait responsable d'une organisation qui s'appelle Humanité et Management, ou Humanité et Entreprise. Et ils font des rencontres systématiques, ils organisent des un peu comme les exemples que vous donniez. Hein. Il y a peut-être même d'ailleurs des difficultés du même ordre. La manière dont les responsables d'entreprise se représentent les étudiants spécialistes de philo, etc., ou la manière dont ils se représentent les gens des mauvais quartiers, enfin bon, c'est souvent très, 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 très négatif. Et en fait, ils se rencontrent et les étudiants ont du travail. Et ce qui est très bien, c'est que c'est en dehors de l'enseignement, justement, parce qu'ils sont formés à d'autres compétences. Deuxième exemple. Beaucoup de nos étudiants, vraiment formés en lettres classiques jusqu'au niveau du master, découvrent, après une spécialisation dans un autre domaine, d'autres champs d'investigation. Je veux dire, la journaliste qui présente le journal d'Arte, Leïla Kadour, est une étudiante qui a fait sa maîtrise en lettres classiques ici. Une étudiante qui gère maintenant ce qui concerne la comment dire les textualités numériques, hein, etc. C'était à La Rochelle qu'elle était passée à un moment chez Alstom, fait son mémoire de maîtrise en linguistique grecque sur du mycénien, donc un dialecte du deuxième millénaire avant. Et voilà. Et le troisième exemple, c'est vraiment plus en rapport avec ce que vous disiez. Auparavant, j'ai enseigné le latin et le grec à Bijviller il y a longtemps. Donc, dans une banlieue un peu éloignée de Strasbourg, mais pas une ville facile, avec des nationalités variées, etc. Et on s'aperçoit, il y a des expériences de cet ordre-là en banlieue parisienne aussi, on s'aperçoit que l'étude des langues anciennes peut être un moteur d'innovation sociale. Parce que les élèves issus de tout le pourtour méditerranéen participent de cette culture antique, qui n'est pas simplement une culture européenne. Je veux dire, Augustin, par exemple, Saint-Augustin était algérien, hein, etc., etc. On pourrait, voilà, on pourrait donner de nombreux exemples comme ça. Et en plus, ils sont à égalité avec les autres, parce que de toute façon, c'est difficile pour tout le monde. C'est la même chose avec les mathématiques, avec enfin, des quantités de matières réputées abstraites. Et du coup, ce type d'enseignement peut être un moteur d'égalité sociale.
Je regrette toujours que dans les quartiers réputés difficiles, les choix d'options, par exemple, au niveau de l'enseignement, soient en général plus réduits. Parce que, voilà, bon, c'était les trois exemples que je voulais indiquer.
Merci pour ce témoignage. Pierre, tu veux rajouter là-dessus?
Moi, je voudrais intervenir à deux niveaux. On est dans un monde qui est soi-disant mondialisé. Et dans les mondes mondialisés, ce qu'on se rend compte, c'est que la question des langues est une question absolument essentielle. Et aujourd'hui, si on n'a pas fait un petit peu de latin ou un peu de grec et qu'on ne comprend pas la notion de déclinaison, on a du mal à comprendre ce que c'est qu'une autre langue, parce qu'on est enfermé dans le français et on ne comprend pas qu'à un moment donné, il y a des génitifs, il y a des datifs qui indiquent un certain nombre de situations et un autre fonctionnement de la langue. Alors que quand on va en Chine, on va comprendre que une langue, elle va mettre ses dimensions en place, celle du temps, celle aussi de fait d'être ou pas liée à un substantif, par des tons. Et ce qui me semble, moi, extrêmement intéressant dans l'acquisition, enfin en tout cas dans la découverte d'une autre langue avec laquelle on a une affinité qui est celle comme le latin, c'est de découvrir qu'un même sens dans une même civilisation peut fonctionner différemment. Moi, j'ai découvert en lisant un livre sur les langues qui m'a permis de faire des liens avec ce qu'était le latin. Et c'est parce que j'avais découvert ma différence avec le latin que j'ai recompris différemment ce qu'était l'allemand aussi, où j'avais fait un peu d'allemand, et que j'ai pu apprécier à la fois des langues africaines ou des langues chinoises. Et il me semble qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à comprendre la dimension de la langue, ce que c'est qu'une langue, si on ne sort pas de la sienne et qu'on n'a pas, à un moment donné, cette espèce de vernis qu'on peut avoir quand on a fait un petit peu de latin. Alors moi, j'ai eu la chance de faire du latin aussi, je vais avec Astérix. C'est-à-dire que, malgré tout, l'intérêt qu'on a pu avoir pour la civilisation romaine, ce n'était pas simplement celle qu'on avait dans les cours de latin, mais c'est aussi parce qu'on avait Uderzo qui, derrière, nous faisait marrer avec ça. Et sans doute qu'un des éléments qui pose problème aujourd'hui, c'est comment on raccorde la question et de César et de la guerre des Gaules, etc. Comment on raccorde ça avec quelque chose qui peut être vivant et actuel pour les gens. Et comme on n'a plus la même actualité autour d'Astérix, il faut en trouver une autre. La deuxième chose que je voudrais, moi, excuse-moi d'être un tout petit peu plus long, mais je suis en train de lire en ce moment un livre sur l'histoire du purgatoire et sur la construction du purgatoire par Le Goff. Et ce que je découvre, c'est comment est-ce que, grosso modo, du 5e siècle jusqu'au 13e siècle, se transforme complètement une vision qui était la vision originelle du christianisme dans une vision qui devient assez punitive. Et ça passe par des moines, ça passe par toute une affaire monastique, par toute une histoire monastique qu'on est aussi en train d'oublier. Et quand on oublie cette histoire, on comprend plus beaucoup Poitiers, par exemple. Si on comprend pas la place des chapelles, des monastères, etc., on comprend plus trop notre ville. Une autre chose qu'on comprend pas, c'est l'essor des moulins et pourquoi est-ce que les moulins ont été le début de l'industrie. Donc ce qui me semble, c'est que quelquefois, le latin, c'est un tremplin vers l'histoire et donc tremplin vers le temps. Et si, dans les temps d'aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est que le temps, on ne sait pas comment aborder la question de la crise et la question du changement.
Juste pour en rajouter un peu dans les ingrédients de composition, puis je te laisse un peu donner des éléments de conclusion. Je voulais donner la parole à Fanny Guérineau pour qu'elle se présente rapidement. Vous la verrez, elle vous interviewera, je crois. Mais voilà.
Bonjour, donc je suis une des trois artistes en résidence dans les ateliers de la ville de Poitiers depuis donc un an maintenant. Trois ateliers qui sont mis à disposition d'artistes jeunes dans le sens où ils ont récemment terminé leurs études dans des écoles d'art ou alors ils sont vraiment dans le début de leur parcours artistique, quoi, de leur recherche artistique. Et donc, ces trois ateliers se trouvent à Belle-Joanne, Poitiers Sud, donc dans un quartier d'immeubles. C'était avant, il y a 6 ou 7 ans, c'était des commerces, en fait, et si je ne me trompe pas, hein, par rapport à l'histoire de ces ateliers. Et ils ont été, par la suite, lorsque les commerces ont été déplacés dans le quartier pour faire un centre commercial, et un pôle d'activité, puisqu'il y a aussi la médiathèque et Cap Sud qui sont là-bas. Ces commerces ont été loués par la ville de Poitiers pour en faire trois ateliers dans lesquels on peut poursuivre notre travail, et avec aussi un accompagnement, puisque c'est un accompagnement de Dominique Trucot, qui est chargé du développement des arts plastiques pour la ville de Poitiers, et qui nous accompagne dans notre recherche, quoi. Qui nous, voilà. Donc, cet été, par exemple, j'étais une des artistes invitées dans la Biennale internationale d'art contemporain de Mel, et je posais aux gens la question du bonheur, en fait, qui était mon matériau qui me permettait de travailler sur cette question du bonheur à partir des réponses des gens, de leurs messages écrits ou parlés. Et donc, j'ai été invitée aussi pour intervenir dans ces deux journées. Et ça m'intéressait d'avoir vos retours, vos réactions, vos mots sur justement cette question de qu'est-ce qu'un territoire. Donc aujourd'hui, j'ai commencé à enregistrer quelques mots que je réutiliserai demain dans une action brève que je donnerai dans le créneau café à 9h dès le matin. Voilà, merci. Merci.
Je ne vais pas prendre trop la parole, mais c'était juste par rapport aux pépinières et donc l'intervention de Pierre Alzinc. J'étais dans le start-up et l'entreprise, parce que je m'occupe du rural aussi dans la question de l'agence pour la case entreprise. Donc j'étais avec Pierre Alzinc sur la question de start-up et l'entreprise. Et donc, juste pour dire que ce qui était extrêmement important dans son opération, notamment, et la manière dont il travaille, c'était pour montrer, c'est pour ça qu'on était avec eux, c'était pour montrer que la start-up et l'entreprise, c'est-à-dire qu'on décalait totalement l'esprit d'initiative, l'esprit de créativité, au sens qu'on déterritorialisait les choses pour que, effectivement, on respecte la population, le peuple et gère la population créative, hein, au sens, bien sûr, dans le même principe, je dirais, que de travailler dans les quartiers populaires, enfin, que je connais aussi sur Mulhouse ou sur Strasbourg, c'est-à-dire on pourrait faire aussi une start-up dans mon quartier, hein, au sens, ce qui permettrait donc de décaler toujours les images et de façon à ce que la créativité puisse naître et que ça se transforme avec quelque chose de clair, concret pour les gens et ça leur dirait quelque chose. Voilà. Donc,
okay, merci pour cette proposition. Yassir, je te donne juste la parole rapidement et puis Christian ensuite conclut parce qu'il est l'heure.
Bonjour, Yassir Yaba, je suis chef d'entreprise et donc je gère une entreprise et j'ai créé un laboratoire pour continuer de chercher. Donc c'est très difficile de renoncer à l'un quand on est tombé dans l'autre. Et à l'exemple de ce que vous disiez pour le no-off avec les gens du social qui vont dans l'entreprise, moi ce que je regrette beaucoup, et la question est plus aux gens du milieu de l'entreprise et de la pépinière, c'est à quand dans les comités de création, enfin de validation des aides, etc., et d'accompagnement, à quand des artistes, des philosophes, des gens des sciences sociales, puisqu'aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, 70% de mon chiffre d'affaires vient de ce qu'on m'a demandé de renier quand on faisait les business plans. Voilà.
Qui veut répondre ? Jean-Claude ?
Moi, certainement, donc sur l'exemple très précis de l'incubateur technologique Étincelle. Le comité de sélection est constitué de chefs d'entreprise, d'investisseurs, de financiers et d'universitaires pour l'innovation. Donc il est vrai qu'on est, ça avait été expliqué ce matin, on est dans des modèles, dans des schémas. Comment sortir de ces modèles, de ces schémas ? Une institution comme l'incubateur régional Étincelle, non, aujourd'hui je ne suis que directeur. Je fais partie de la gouvernance de mon institution. Donc on reste dans ces schémas-là. Donc après, on sait tous qu'une création d'entreprise, c'est une histoire d'homme ou de femme, une histoire humaine. Nous, dans les équipes, dans les techniciens opérationnels, on sait très bien qu'un premier business plan qui est présenté n'est jamais réalisé. Hein, donc je ne suis pas surpris d'apprendre que vous avez une voie ou un chemin qui a été différent par rapport au premier document. Donc nous, on est conscients de ces schémas-là. Mais vous avez raison, on reste dans des modèles et aujourd'hui, les institutions, nos gouvernances, on a un peu de mal à en sortir. Par contre, on reste très ouvert. L'apport des chefs d'entreprise sur nos comités de sélection permettent d'avoir cette vision très pragmatique des choses. C'est-à-dire que par rapport à un instant T, il y a une présentation d'un projet, d'un porteur de projet. Ce que tout le monde regarde, ce n'est pas le business plan finalement, c'est bien le porteur et les qualités intrinsèques du ou des porteurs de projet.
Ok, Ok, merci. Donc, quelques éléments de conclusion et ensuite, on a rattrapé le temps un peu qu'on avait un peu perdu. Donc, on débutera vraiment à 14h parce que vous avez vu que c'était assez dense. Donc, si on veut respecter. Mais quelques mots de conclusion de Christian.
Oui. Trois mots clés me viennent à écouter cette matinée. Le premier, c'est la notion de distance. Distance à réduire quand il s'agit d'entreprises qui sont derrière la rocade et qu'il faut ramener vers la population ou des populations qui sont distanciées par un fleuve vis-à-vis des entreprises, mais aussi mise à distance pour pouvoir mieux comprendre le monde, enfin, d'où la nécessité de traduire, de faire des versions, de prendre de la distance. Mais aussi cette distance à réduire, elle est à réduire par rapport à des populations. Et on voit bien qu'il y a des initiatives diffuses qui sont peu connues, donc remettre au jour, et aussi des vies, enfin, ou les perdus de vie dont vous parliez, qui sont aussi dans une grande distance par rapport à la société dont vous vous occupez. Donc autour du concept de distance, on a beaucoup d'éléments à travailler de cette matinée. Le deuxième concept, c'est l'humanisme. Et j'étais un peu étonné parce que, bon, les pépinières, les incubateurs, enfin moi j'ai... La première rencontre des pépinières d'entreprise ou incubateurs, c'était en 1985 au ministère de la Recherche à Paris. Enfin. Et donc là, on ne visait pas forcément ce que vous avez dit aujourd'hui, l'individu, le talent et l'équipe. Hein, vous avez dit l'individu, le talent et l'équipe, surtout quand ils sortent de l'université ou d'un labo de recherche, c'est souvent des équipes. Approche humaniste aussi, dans la mesure où on va essayer de faire... des programmes sur mesure en fonction des créateurs qui vont venir, hein, comme nous a été dit par Lunel, et aussi où bien sûr on va s'appuyer sur la richesse humaine et les talents. Bon, ça a été bien développé. Enfin, le troisième concept, et j'arrête là, c'est l'interdépendance. C'est-à-dire que vous avez toujours énoncé qu'il y avait la nécessité de développer un milieu, que ce soit dans le territoire, que ce soit autour d'un collectif, que ce soit autour d'un maillage et de réseau, un maillage entre tous les acteurs qui travaillent sur une région, enfin toutes les pépinières, et pour aussi donner de la fierté aux gens, parce que c'est dans l'interdépendance qu'on donne de la fierté, et c'est dans l'interdépendance que l'on rétablit l'estime de soi dont vous avez parlé pour Strasbourg. Enfin, je terminerai rapidement sur tout ceci fabrique du lien social, bien sûr, cette interdépendance des hommes et des territoires. Un travail acharné vient à bout de tout, c'est là où est le pouvoir d'agir, et comme disait Jean-François Macaire en débutant, cette activité doit pouvoir s'inscrire dans la durée. Voilà.
Merci Christian. Donc je vous propose une unité de lieu, donc c'est juste à la cafétéria pour le repas, et on se retrouve ici dès 14h.